Quelle est de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 24 décembre de 18h à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Denis. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui ont décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos, bon Noël.
Hein, vous êtes surpris. Hein.
Bon Noël à tous. Alors,
je suis tout seul dans le studio.
Parce que Victoria est partie en vacances. La semaine dernière, elle était malade. Cette semaine, elle n'est pas en vacances. On ne peut plus compter sur le personnel. Ma douce femme n'a pas pu venir. Je l'embrasse d'ailleurs. Je vais la rejoindre tout à l'heure si tout se passe bien. Et quant à mon invité de ce soir, il est bloqué dans la descente de Saint-Cloud, à bord de son véhicule à moteur, qui est littéralement bétonné dans les embouteillages. Le problème, c'est que nous essayons de le joindre par téléphone, et qu'il semble qu'il y ait une difficulté. De quel ordre ? Injoignable. Alors, il faudrait essayer peut-être l'autre numéro, parce que là, ça devient vraiment un petit peu compliqué. Donc, vous savez que j'avais invité ce soir Jean-Marie Le Pen, pour parler de Noël, puisqu'on avait décidé de faire une soirée un petit peu particulière, une soirée de détente, une soirée qui nous aurait fait oublier l'environnement politique extrêmement rude, lourd, difficile que nous connaissons, qui nous aurait fait oublier les banlieues, qui nous aurait fait oublier enfin la politique en général. Je ne vais pas en reparler, on ne va pas se rendre malade. Et donc j'avais demandé à Jean-Marie Le Pen de venir nous parler de ces Noëls, les Noëls qui avaient le plus marqué sa vie, ces Noëls d'enfance et puis les autres. Mais comme je vous le dis, il est d'une part bloqué dans les embouteillages, et d'autre part, il est apparemment bloqué au téléphone puisqu'on n'arrive pas à l'attraper. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord, pour se donner le temps d'essayer de le joindre, écouter un petit morceau de musique bretonne. Ça permettra, comme je sais qu'il nous écoute, ça lui permettra peut-être de patienter aussi. Et dès qu'on arrive à le joindre au téléphone, je reprends ce micro avec lui. Thank you. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si c'est Noël ou le 1er avril, mais en tout cas, on n'arrive pas à voir la voiture de Jean-Marie Le Pen, et on n'arrive pas non plus à avoir le président qui est toujours apparemment bloqué dans les embouteillages. Donc là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis contraint de faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire de traiter de l'actualité. J'espérais qu'en cette veillée de Noël, il me serait épargné de me mettre en colère, mais bon, je vais essayer de le faire. Posément, de parler de l'actualité d'une façon tranquille et posée. Mais ça va être un petit peu difficile parce que cette actualité a quand même quelque chose d'assez déplaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je lis par exemple que M. Charles Millon, le député UDF bien connu, a proclamé dimanche 21 décembre sur une station périphérique que les dirigeants du Front National sont des charognards de la politique. Il prospère sur le malheur de la France et des Français. Alors, ça, c'est un propos, naturellement, qui est tout à fait digne de M. Millon. On n'est pas surpris de l'entendre. Mais on a envie de répondre à cette affirmation par une question. Cette question, c'est si le Front National prospère sur le malheur de la France et des Français, c'est qu'il y a malheur de la France et des Français. Or, pour autant que je sache, ce malheur ne peut pas être imputable au Front National, puisque le Front National n'a jamais été au pouvoir. Donc il faut bien penser que ce sont les gens qui ont été au pouvoir depuis un demi-siècle, pratiquement, qui ont fait le malheur de cette France et de ces Français. Alors, qui sont ces gens, Monsieur Millon ? Est-ce que vous pourriez nous répondre ? Ça serait quand même intéressant que vous nous le disiez. Et je pense que s'il y a des charognards, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des cadavres. Et qui ne sont pas tous dans les placards. Et par conséquent, parmi ces cadavres, il y a le cadavre, effectivement, d'une certaine France qui a été assassinée par les pourrisseurs et par les pourris qui vous entourent, Monsieur Millon. Et ce qui est amusant, c'est qu'il suffit de lire la presse pour... J'ai vu cette déclaration dans le Canard enchaîné. Alors, il suffit de lire les autres pages du Canard enchaîné pour voir qui sont les pourris et les pourrisseurs et pour renvoyer Monsieur Millon à s'adresser à ceux qui ont fait qu'il y a de la charogne sur laquelle pourraient prospérer les charognards. Voilà. Bon, j'ai même pas le temps de me mettre en colère contre la déclaration de l'évêque de Saint-Denis qui a déclaré le Front National infréquentable. Il faut lire le papier de Jean Madiran dans présent de cet après-midi qui sera en vente également demain. Je n'ai pas le temps et je m'en félicite parce que apparemment nous avons Jean-Marie Le Pen au téléphone. Allô?
Oui.
Oui, bonjour président, comment allez-vous?
Mon cher Bebeket, je suis là et je suis en pleine neige. Je suis heureusement dépanné par un traîneau avec un monsieur très gentil,
oui.
Avec une grande houppelande rouge et une barbe blanche qui est, semble-t-il, traîné par des rennes. Je crois que c'est l'APNA, l'Association des Pères Noël Associés. qui actuellement est en train d'essayer de me dépanner au milieu d'un énorme embouteillage, et qui doit être un embouteillage de champagne, compte tenu de la date à laquelle nous parlons. Mais enfin, je pense que l'un dans l'autre, on devrait finir par arriver dans la cheminée, mais en attendant, si vous voulez bien, on peut quand même commencer à parler.
Mais oui, je pense que nous allons faire une émission mobile.
Oui, alors laissez-moi d'abord vous dire, parce que j'ai senti tout à l'heure quelques colères méritées, quelques justes colères imprégner vos paroles. Alors, disons ce soir, et in terra pax omnibus,
oui. N'est-ce pas ?
Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, ceux qui sont de mauvaise volonté, après tout, qu'ils s'en débrouillent.
Ils s'en débrouillent.
Mais nous, qui sommes des hommes de bonne volonté, nous allons nous efforcer de parler, si vous voulez bien, de nos affaires et surtout de celle de cette merveilleuse date qu'est Noël, que nous fêtons tous ensemble, qui est la fête, bien sûr, des chrétiens, mais au-delà de cela, de tous ceux qui croient en l'au-delà et même qui ont une pensée paternelle pour l'enfant, quelle que soit sa race et sa religion.
Je voulais vous dire aussi que ce soir, justement, quand on dit Pax Intera...
Et Pax Omnibus,
ça veut dire également paix aux conducteurs d'omnibus dans les banlieues, probablement.
Oui, ah oui, hein, c'est
pour,
vrai.
Pour
ça.
Cette soirée.
C'est vrai.
Et pas seulement pour cette
soirée. Il n'est pas certain que tout le monde obéisse à ce mot d'ordre généreux et pacifique.
Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois aux auditeurs de cette émission, je vous avais demandé d'être avec nous ce soir pour parler non pas de politique, parce qu'on pourrait s'offrir une soirée comme ça par an, dans laquelle on parlerait d'autre chose. Et comme c'est la soirée de Noël, je voudrais qu'on...
Quelle plus jolie soirée de paix que celle-là.
Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez, comme si nous étions... pour une veillée de Noël autour de la cheminée en attendant l'heure de la messe de minuit et puis ensuite des festivités réveillonnesques, que vous nous racontiez vos Noëls.
Cher ami, je crois même pouvoir vous le faire presque directement à l'antenne, puisque volant au-dessus des nuages, voici que mon attelage vient de s'arrêter devant votre porte.
Ah, bah écoutez, c'est
alors,
une bonne nouvelle.
Alors, si vous me donnez 2 minutes...
Est-ce que vous êtes poursuivi par la police?
Je salue, oui, c'est elle qui nous accompagne. Je vous salue le Père Noël, je le remercie, et j'arrive à vous.
Eh bien, nous vous attendons, Président. On va peut-être mettre un peu de musique pour attendre que Jean-Marie Le Pen franchisse les 12 mètres qui séparent la porte du studio. Jean-Marie Le Pen, c'était pour vous, ça c'est de la musique de chez vous.
Absolument.
Alors, puisqu'on est allé en Bretagne avec la musique, on va peut-être y rester par le souvenir. Parce que je crois pouvoir dire que, d'après certains bruits, mais sous réserve de correction éventuelle, vous êtes attaché à la Bretagne par certaines fibres.
Alors, bien sûr, je suis né natif, comme on dit, de la Trinité-sur-Mer. Encore que dans le Routard... On met la Trinité-sur-Mer, jolie petite ville de Bretagne où, hélas, est né Jean-Marie Le Pen. j'ai promis que ce soir, ce serait une soirée pacifique. Par conséquent, on pardonne tout ce soir pendant au moins quelques heures. C'est le grand pardon. Le grand pardon chrétien.
À propos du grand pardon, j'ai dit joyeux Noël tout à l'heure, mais je n'ai pas dit bon Hanouka.
Non, d'accord.
C'est également le deuxième jour d'Hanouka.
Oui, c'est vrai.
Et puis, c'est le jour d'une fête musulmane, mais je ne sais pas si. Je pense que les auditeurs pourraient nous téléphoner.
Oui, que chacun fasse la fête devant sa porte,
voilà.
En quelque sorte. et voit l'heure à son clocher. Mais moi, vous savez, vous me demandez d'évoquer le Noël, mais moi, je suis un petit garçon d'avant-guerre. Par conséquent, le goût et le parfum et la lumière de mes Noëls n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui.
Quel est le premier Noël dont vous vous souvenez comme petit garçon?
Ah, j'étais tout petit, mais d'abord, chez nous, le Noël était précédé d'une période qui s'appelait l'Avent. n'est-ce pas ?
Oui, chez nous aussi.
Car vous savez que c'est vrai que il n'est plaisir que désiré. Et c'est l'attente qui, et c'est l'ascèse qui crée le plaisir. Par conséquent, ce temps qu'on appelait l'avant, eh bien, on préparait à la fois son cœur, son âme et sa cheminée à l'arrivée du petit Jésus. Et on chantait « Venez, divin Messie, sauvé », etc. Et nos jours infortunés... Ah,
je suis sûr que vous pouvez mieux faire que ça, vous pouvez chanter. «
Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés, venez, source de vie, venez, venez, venez. »
Ah, ça, voilà. Enfin, on vient de franchir la 40 ans en arrière.
Oui, un peu plus que ça. Et alors donc, on attendait Noël... Et avant même qu'il y ait des crèches chez les petits garçons, chez les petits enfants, eh bien, il y avait la crèche de la paroisse. Et ça, c'était quelque chose, c'était un spectacle extraordinaire au temps où il n'y avait pas la télévision et où le cinéma, en quelque sorte, non pas balbutiait, mais s'exerçait dans un tout autre domaine. Et la crèche, c'était un spectacle... qui était merveilleux pour les enfants. Et la nôtre était très grande, avec tous ces personnages, avec l'étoile, avec l'ange Gabriel portant justement la banderole, déjà la propagande, et in terra, pax hominibus. Et puis, évidemment, Marie, Joseph, l'âne et le bœuf, le petit Jésus, il ne viendrait que le lendemain, bien sûr, de Noël. Et puis les bergers qui faisaient partie, en quelque sorte, d'un paysage qui était étonnant pour nous, pays de vaches, mais pas pays de moutons. Alors ces bergers avec ces moutons, et puis l'âne et le bœuf, vous connaissez la fameuse histoire, elle est un petit peu méchante, pour vous, je l'ai racontée déjà, l'histoire des jésuites, oui.
Il faut la raconter quand même, parce que tous les auditeurs la connaissent pas.
Je la raconterai pas aujourd'hui, mais tout à l'heure, voilà, pas tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis il y avait, très loin là déjà, mais qui allait s'avancer au cours du mois de janvier, les rois mages, n'est-ce pas?
Pardon, à propos de la crèche, parce que maintenant toutes les crèches sont provençales pratiquement. Est-ce que vous aviez les personnages dans les crèches bretonnes? Est-ce qu'il y avait des personnages comme le Ravi, la marchande
de bois?
Ah
non, pas du tout. Non. Ça c'est ravissant d'ailleurs. Mais c'est typiquement provençal.
À l'époque,
ça a pris d'ailleurs une grande extension. Mmh. On y voit par exemple pratiquement... Tout le monde paysan, ouais. tout le monde rural, c'est très très joli, il y a des véritables œuvres d'art. Non, c'était assez typé, si vous voulez, c'était bien toujours les mêmes personnages, plus ou moins nombreux, et plus ou moins artistiquement présentés, selon le talent et aussi les moyens financiers mis à la disposition des uns ou des autres. Et puis, je me souviens qu'un personnage qui me fascinait, je ne sais pas si on pourrait le mettre aujourd'hui, à cause de SOS Racisme et de la LICRA, c'était le petit nègre qui hochait la tête chaque fois qu'on mettait une pièce. C'était le petit nègre qui faisait la caisse. Alors, comme on ne peut plus même pas maintenant parler de petit nègre, là on peut dire le petit noir, quoi. Il y avait un petit noir qui, alors, on était poussé à mettre beaucoup de pièces pour voir sa tête bouger, parce que les personnages mobiles, à ce moment-là, étaient rares. Les personnages étaient assez figés.
Oui.
Et puis alors, Noël, c'était...
Il y avait l'éclairage aussi. Comment ? Il y avait un éclairage spécial dans l'éclairage.
Oui, il y avait un éclairage, puis il y avait une grande étoile, il n'y avait pas encore d'arbres. Ce n'était pas dans le fond, ce que je crois bien, il faut bien le dire, c'est l'occupation qui a amené la mode germanique ancienne. Je crois qu'elle remonte, je crois que c'est une princesse de Mecklembourg qui a amené ça au milieu du 19e siècle, mais ça n'était pas encore arrivé
dans les contrées.
Jusqu'au Far West dans lequel j'habitais. Et nous étions encore, en quelque sorte, vous avez une conception paysanne de Noël. Alors, Noël, c'était d'abord la veillée, parce qu'on allait aller à la messe, pas la messe du vendredi soir pour les coureurs cyclistes, ni celle du samedi matin pour les voileux, ni celle du samedi après-midi pour les coureurs automobiles. Non, la messe, c'était la messe de minuit. Et donc, pour attendre la messe de minuit, d'autant qu'on avait l'habitude de se coucher tôt, n'est-ce pas, dans ces temps-là, et surtout quand on était petit, eh bien, pour attendre la messe, il y avait la veillée. La veillée en face de la cheminée, où brûlait la bûche, la grosse bûche qu'on avait gardée ou qu'on avait été chercher et qui devait, dans quelque sorte, se consumer toute la nuit pour qu'au petit matin, elle rougeoie encore un peu, qu'il y ait encore quelques braises au moment où les yeux émerveillés, on viendrait regarder si le Père Noël ou le petit Jésus avait mis quelque chose dans les sabots qu'on mettait à l'époque, ou dans les souliers plus tard. Alors, cette veillée était l'occasion de manger quelques friandises. Et moi, si j'ai cru très longtemps au Père Noël, c'est parce que j'avais été victime d'un subterfuge de mon père, je dois dire, un pieux subterfuge, c'est qu'il avait accroché des sacs de noix dans la cheminée, et à un moment donné, je les ai vus tomber. Et quand mes petits copains me disaient, mais c'est pas vrai, le Père Noël,
moi, j'ai
etc.,
vu.
Je dis, comment, à moi? Mais je les ai vus, j'ai vu tomber les sacs de noix, je sais donc bien qu'il y a un Père Noël et que c'est lui qui apporte les jouets, etc.
Est-ce que le Père Noël était comme aujourd'hui? Il avait
oui,
c'était un grand vieillard aux plantes.
Oui, le Père, vous qui êtes un champion de la bande dessinée, vous connaissez ça sur le bout du doigt, vous savez comme moi que Mickey est mon contemporain,
oui,
et qu'il y avait, quand j'étais petit garçon, 7-8 hebdomadaires de bande dessinée. Hein, n'est-ce pas, dont le journal de Mickey, et donc il y avait un certain nombre, ce Santa Claus, n'est-ce pas, ce Saint Nicolas, en fait, ce Saint Nicolas, qu'est le Père Noël, c'était donc lui qui apportait les jouets, il apportait les jouets à ceux qui attendaient la venue du petit Jésus et qui se chauffaient, d'abord parce qu'il faisait pas très chaud dans les maisons à l'époque, en tout cas dans la mienne, il n'y avait pas de chauffage central.
Oui, j'allais vous poser la question tout à l'heure, quelle était l'ambiance? Il y avait juste une cheminée avec
Alors, c'était une cheminée.
T'es dans une cuisine ou...
Oui, moi j'avais une cuisine, salle à manger, salle de bain, salon, et par conséquent, on poussait la table sur laquelle on allait préparer le réveillon, et puis on grignotait un petit peu des noix, des choses comme ça, et car c'était tout de même le Noël de mon enfance, encore que je n'étais pas un petit pauvre, en tous les cas pas le plus pauvre. Quand j'étais petit garçon, il y avait des petits garçons et des petites filles qui n'avaient qu'une orange pour Noël. C'était leur cadeau.
Mais votre père était patron pêcheur. Hein.
Mon père était patron pêcheur.
Donc c'était déjà, il avait une maison.
J'étais enfant unique et j'étais gâté, il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, le lendemain de Noël, les petits copains venaient voir mes soldats de plomb, mon jeu de construction, ou mon jeu de loi, ou toute une série de choses comme ça. Et car, en effet, bien souvent, ils n'avaient reçu qu'une paire de sabots neufs ou une chose comme ça. Quelquefois, un coup de sifflet bref, et même rien du tout. Et alors, il y avait la messe de minuit. Alors, on allait parler, il n'y avait pas d'éclairage, bien sûr, public, on allait dans le noir, selon le temps, quelquefois c'était la tempête, quelquefois il faisait froid, quelquefois même, nous avions la chance extrême, chez nous, d'avoir de la neige.
Oui, vous aviez de la neige de temps en temps.
Quelquefois, une fois tous les 4 ou 5 ans, mais quand il y en avait, c'était une joie merveilleuse. Et alors, nous allions à la messe de minuit, on arrivait dans l'église, et l'église, surtout avec le contraste du froid de la nuit, c'était chaud, enfin ça nous paraissait chaud à l'époque, et ça sentait l'encens, ça sentait les bougies, ça sentait il y avait de la lumière, et la crèche du fond, et puis commençaient les trois messes basses, que je ne raconterai pas, d'abord parce que les curés bretons ne disaient pas ça comme Dom Balaguer, à toute vitesse. On...
Peut-être parce que la chair était moins tentante après la messe de minuit.
Je ne sais pas, Domscum stutuo, n'est-ce pas, etc. Et donc, nous pieusement, on écoutait les trois messes de minuit, avec, il faut bien le dire...
Vous avez connu ça, les trois messes
sûr, de minuit, les trois messes basses. Les trois messes basses de minuit, intégrales, et c'est qui durait près d'une heure, à peu près, fallait compter ça. Et puis on venait à la maison, la maman était partie un petit peu avant pour préparer le réveillon.
Il n'y avait pas de distribution de friandises à la sortie de la messe?
Non, il fallait attendre la maison pour ça. Et à la maison, il n'y avait pas encore de cadeaux, il n'y avait que ce repas qui était un repas de fête, c'était du poulet généralement, avec des marrons à l'intérieur, ou quelquefois peut-être une noix. Il n'y avait pas de dinde chez nous, c'était pas encore... C'était un mets déjà de...
C'était américain, là.
De comment?
C'était américain, là.
Oui, puis en plus, c'était un mets dont on entendait parler, mais qu'on ne consommait pas chez nous. C'était surtout des poulets, des chapons, des choses comme ça.
Qui y avait autour de la table avec vous?
Alors,
avec
vos parents? Il y avait la famille, c'était les parents. C'était vraiment une fête très, très familiale, les grands-parents, quand il y en avait. Et puis alors, on chantait, il y avait eu les cloches, il y avait tout ça. Il y avait une ambiance très gaie, très joyeuse, très villageoise. On croisait des gens dans la rue, on voyait des groupes qui allaient et venaient, et tout le monde était heureux. Et puis alors, on mettait les sabots dans la cheminée. Quand j'étais petit garçon, moi, il y avait encore des sabots.
Vous avez porté les sabots quand vous étiez petit garçon?
Oui, absolument. J'ai été le premier petit garçon de l'école à avoir des brodequins entièrement en cuir. J'étais pas peu fier. Le roi n'était pas mon cousin. Après, on mettait les souliers et on allait dormir en attendant le réveil du matin. On s'angoissait de savoir ce qu'on allait avoir. Et en espérant surtout ne pas avoir de verge qu'amenait le père Fouettard aux petits enfants qui n'avaient pas été sages ou qui n'avaient pas bien travaillé à l'école. Alors, d'abord, je crois que, si vous me permettez de dire ça, Noël, c'est une fête qui est consubstantielle à notre civilisation. À notre civilisation chrétienne, grecque, romaine. Parce que c'est la fête de l'incarnation, n'est-ce pas? C'est ce qui différencie fondamentalement notre civilisation chrétienne, c'est que c'est une civilisation incarnée, et non pas désincarnée, virtuelle, comme le sont un certain nombre d'autres, ce qui se traduit d'ailleurs dans l'art pictural,
ou dans l'absence
d'art. Dans la statuaire, comment?
Dans l'absence d'art aussi.
Oui, ou dans l'absence d'art, bien sûr. Mais donc, c'est la fête de l'incarnation. L'enfant, qui est d'ailleurs émouvant par sa faiblesse, par sa beauté, par sa grâce, c'est aussi l'enfant frère. Le petit Jésus, c'est d'abord le petit frère de tous ceux qui n'en ont pas, et moi je n'en avais pas. Et c'est le petit frère de tous ceux qui en ont aussi, n'est-ce pas? Et c'est le petit frère de tous les hommes, et tout le monde se retrouve un petit peu moins méchant que d'habitude, un petit peu plus généreux, un petit peu plus indulgent, on pardonne. Et puis, j'étais sensible, à la gloire et à la majesté suprême dans l'humilité et la pauvreté de la crèche, de l'étable. Et je crois que ce contraste est une des très belles leçons de Noël. Il en est d'autres, certes.
Je me pose toujours une question. Quand des enfants de la campagne voient la crèche, eux qui voient des crèches tous les jours, parce que vous, dans votre entourage, sinon dans votre famille, mais je crois du côté de vos grands-parents maternels, c'était plutôt des gens de la terre.
Oui, des paysans. Oui, des paysans.
Et donc, une crèche, est-ce que c'était un endroit où on met une étable, ça devait pas procurer une émotion particulière?
Oui, mais cette crèche-là, d'abord, il n'y avait pas de bouse, n'est-ce pas? Oui. Cette crèche-là était stylisée, si vous voulez. En fait, elle ne ressemblait pas aux étables que nous connaissions chez nous. Et en ce sens, elle était idéalisée. L'âne et le bœuf, il n'y avait pas d'âne chez nous. Il a fallu que j'attende d'avoir, d'aller en Algérie pour voir des ânes.
Vous voulez dire, il n'y avait pas d'âne à la campagne?
Il n'y avait pas d'âne, chez nous, pas d'âne. Il y avait des vaches, il y avait des cochons, des chevaux, mais pas d'âne. C'est un animal d'ailleurs, un animal très sympathique au demeurant. Non, il n'y avait que le bonnet d'âne que nous connaissions, avec ses grandes oreilles. Ces Noël ont ponctué, en quelque sorte, ponctué la vie. Et je me souviens en particulier des Noëls de guerre. 39-45, par une espèce de malfaisance de la météorologie, tous les Noëls de la guerre furent très froids. Noël 39-40 jusqu'à 45, tous les Noëls furent froids, et évidemment, là, c'était autre chose. Et puis, venue la pénurie. Oui. La pénurie, la faim, le froid.
Et vous avez connu un drame qui est le drame de perdre son père.
Absolument.
Souvenez du Noël sans père.
Le Noël sans papa, bien sûr, je m'en souviens très bien. Mais je savais que j'étais comme des centaines de milliers, je ne savais pas encore que j'étais comme quelques millions d'autres. Mais tout était, évidemment, il y avait très, très peu de jouets. Et il y avait très peu de nourriture, car il y avait des cartes, nous étions en zone interdite, en zone côtière interdite, et nous n'avions pas droit à un certain nombre de tickets qui étaient ceux des villes, sous le prétexte que nous étions à la campagne, et nous étions dans une ville qui était très occupée, avec une très grosse densité de l'armée et de la marine allemande. Par conséquent, ils achetaient tous les produits qui étaient en vente libre, qui nous passaient sous le nez. Je me souviens que ma mère, pour vous donner l'ordre d'idée de ce que c'était que la pénurie pendant la guerre, ma mère avait envoyé par la poste, en colis postal, 5 kilos de pommes de terre à son frère, qui était officier aviateur à Toulon, ou alors la pauvreté de nourriture était formidable, parce qu'il y avait de très jolies pierres, de très jolis pains et des fleurs, mais pas beaucoup de pommes de terre. C'est pour vous donner un peu une idée de ce que c'est, mais c'est très difficile d'imaginer cela.
Je signale aux auditeurs qu'ils sont sur Radio, ils écoutent Radio Courtoisie, et que c'est Jean-Marie Le Pen qui est avec moi ce soir, avec Serge Dewecquel ce soir, que nous évoquons les Noëls de Jean-Marie Le Pen.
Et puis, il y a eu les Noëls d'étudiants. Ça, c'était une des périodes, sans doute, les plus sévères. Les Noëls les plus sévères de ma vie, parce que, d'abord, là, j'étais solitaire. J'étais à Paris. J'étais sans famille. Et le soir
ça,
de Noël...
la fin des années 50.
C'est ça. Non, le début des années 50. Des années 40. C'est tout à fait le début des années 50. Et... Les camarades, ce soir-là, ils étaient dans leur famille, et moi, je n'avais pas de famille, et je me souviens même d'une année où je suis rentré rue de Vaugirard, à Vaugirard, où j'habitais, rue de Courbe, à pied, parce que je n'avais pas de ticket de métro, et j'habitais avec un camarade, et nous mettions des journaux entre les couvertures, des couvertures de soldats que nous avions sur nos lits, vous savez, ces couvertures qui sont à la fois laides, lourdes et froides. Et voilà. Mais on s'y fait, bon. Et puis alors, des Noëls qui ont beaucoup marqué ma vie sont les Noëls de soldats. Et en particulier, les Noëls de la Légion étrangère.
Oui, ça, c'est quand même la fête par excellence.
C'est l'une des deux grandes fêtes de la Légion, avec Cameron, le 30 avril. Noël, c'est la fête des légionnaires, parce que c'est la fête des sans-familles.
Il faut dire, parce que peu de gens le savent, que le soir de Noël, toute la Légion, tous les officiers et les légionnaires sont rassemblés. Même les officiers ne font pas Noël en famille.
Absolument.
Avec leurs femmes et leurs enfants, ils font Noël avec leurs hommes.
Absolument. Noël se fête dans l'unité, dans les sections. Très souvent, d'ailleurs, chaque section a fait sa propre crèche. Il y a des concours de crèche, d'ailleurs. Alors là, l'imagination se donne libre cours, parce que c'est pas toujours évident de trouver des sapins, et en particulier en Indochine. Eh bien, je me souviens, on remplaçait le sapin par un arbre qui lui ressemblait un peu, qui s'appelait le filao, n'est-ce pas, qui avait quelques vagues ressemblances avec, mais enfin, on trouvait quelques guirlandes, et on faisait, et puis tout ça, quand on a bu un bon coup de bière, ou même plusieurs coups de bière, avec l'imagination, ça remplace.
La mousse fait un peu penser à la neige.
Un Noël amusant aussi, c'est le Noël de Suez. Nous sommes, si vous vous souvenez, on a débarqué à Suez en novembre 56, oui. N'est-ce pas, novembre 56, c'est si loin tout ça, que ça fait donc qu'il y avait plus de 40 ans, et nous rembarquons le jour de Noël. Actuellement, nous rembarquons le matin de Noël, donc à l'heure de Noël, nous sommes en mer, dans le ventre d'un cargo, c'est pas très confortable.
Et, pas les croisières,
mais et là, alors, j'ai admiré l'extraordinaire imagination et capacité inventive des légionnaires. Et ils avaient, avec un madrier au couteau, ils avaient découpé des copeaux, n'est-ce pas, qu'ils avaient collé à un manche en bois pour arriver à faire un arbre de Noël. Ils avaient emprunté de la peinture verte aux marins, ils avaient peint ces copeaux en vert, et nous avons quand même eu un arbre de Noël dans le cargo qui nous ramenait au large de la Libye et de la Tunisie le soir de Noël.
C'est extraordinaire ça, parce que là on voit, ça va beaucoup plus loin en quelque sorte que simplement le fait de construire un sapin. Ça donne une impression d'indestructibilité, l'impression que ces gens ont perdu.
Oui, c'est l'expression d'un besoin.
En même temps,
c'est la volonté, où qu'on soit, de recréer l'atmosphère irremplaçable de Noël. Et puis, un des derniers Noëls de soldats que j'ai vécu, c'était à Hachem et Saoud. Au moment où on rêvait, la France rêvait, elle était devenue une puissance pétrolière. Et je me rappelle, cette nuit-là, on a arrêté le forage sur le puits numéro 2 d'Hachem et Saoud, qui est d'ailleurs, vous savez que la tête de puits, le pro d'Hachem,
s'appelle
un arbre de Noël. Hachem et Saoud numéro 1, n'est-ce pas, était un arbre de Noël. L'autre était en forage, et on a arrêté le forage au minuit pour voir le champagne en haut du derrick. Il faisait un froid de loup, je crois moins 4, moins 5, car il fait froid en hiver dans le désert. Et c'était la première compagnie du premier REP, ma compagnie, celle du capitaine Martin. Moi, j'étais redevenu député, j'étais à l'Assemblée, et j'ai tenu à passer Noël avec eux. Et je suis allé là-bas en amenant, bien sûr, un arbre de Noël dans l'avion. Dans l'avion cargo, et puis quelques caisses deux caisses de cognac, je crois, avec lesquelles nous avons festoyé toute la nuit, joyeusement, comme il se doit quand on est légionnaire et que l'on fait la fête.
Alors ça, c'est des Noëls joyeux que vous nous avez racontés, mais est-ce que vous avez connu des Noëls plus dur, plus triste, plus pénible?
Oui, je vous dis, j'ai connu les Noëls de guerre qui n'étaient pas gays, mais c'était toujours quand même une fête de bonheur, parce que c'était quand même la fête de l'espérance. C'est, voyez-vous, il y a quelque chose qui je trouve très symbolique, et qui se rapproche de notre temps d'espérance. C'est que le solstice d'hiver, n'est-ce pas, ça marque le jour où les nuits vont cesser de s'allonger et les jours de raccourcir. Et nous allons donc, les jours vont allonger, les nuits raccourcir, et vous savez que l'homme a peur de la nuit, l'homme est mal dans la nuit, mais nous ne sommes pourtant qu'à l'entrée de l'hiver. Ce qui veut dire que l'espérance qui naît ce jour-là, c'est qu'elle va encore devoir traverser des mois très difficiles avant d'entrer dans le printemps. Eh bien, je trouve, c'est un petit peu le message que je souhaiterais transmettre, le message du cœur que je souhaiterais transmettre à tous ceux qui partagent les mêmes espoirs, les mêmes espérances que nous. C'est justement, je ne dis pas que ça va demain, parce que le jour sera plus long et la nuit plus courte, ça va aller mieux, mais nous traversons la dernière étape, celle de l'hiver. Après, ce sera le printemps, et après, ce sera l'été. Mais, si vous me permettez, je voudrais tout particulièrement ce soir avoir une pensée pour ceux qui sont certainement les plus malheureux des hommes, ou des femmes d'ailleurs, plus malheureux que les pauvres, plus malheureux que les gueux, parce qu'ils sont en prison. Et je ne ferai ce soir, si vous le permettez, aucune différence entre les bons et les méchants, mais j'aurai simplement, entre les innocents et les coupables, j'aurai une pensée, si vous le permettez, pour nos deux camarades qui sont à Marseille, Lagier et D'Ambrosio, en prison depuis près de 3 ans, parce qu'ils ont été arrêtés après un incident meurtrier lié à la campagne électorale, et dans laquelle ces bénévoles, ces hommes de bonne volonté, ont été victimes de la fatalité et victimes aussi de l'insécurité dont les responsables sont tout de même les gens qui nous gouvernent. Alors, parce qu'ils sont loin de leur famille, je pense tout spécialement à eux et à leur famille, et si vous permettez, je vais essayer de vous dire le Noël en tôle de Brasillac. Qu'importe aux enfants du hasard le verrou qu'on tire sur eux. Noël n'est pas pour les vénards. Noël est pour les malchanceux. Voici la nuit, il n'est pas tard, mais la cloche tinte pour eux. Bon Noël des garçons en tôle, Noël des durs et des filous, ceux dont la vie ne fut pas drôle, la fille que bat le marlou, le gars qui suivait mal l'école, ils te connaissent comme nous. Noël derrière les barreaux, Noël sans arbre et sans bonhomme, Noël sans feu et sans cadeau, c'est celui des lieux où nous sommes, où d'autres ont joué leur peau, sur la paille dormi leur somme. Je t'adopte, Noël d'ici, bon Noël des mauvais espaces, tu es le Noël des proscrits, de ceux qui rient dans les disgrâces, des pauvres bougres qu'on trahit et des enfants de bonne race. Nous savons qu'au dehors, ce soir, les amis et les cœurs fidèles, les enfants ouvrant dans le noir, malgré le sommeil leurs prunelles, évoquent l'heure du revoir et tendent leurs mains fraternelles. Et pour revoir, gens du dehors, le vrai Noël de nos enfances, il suffit de fermer encore nos yeux sur l'ombre de l'absence pour dissiper le mauvais sort et faire flamber l'espérance.
Alors, Jean-Marie Le Pen, c'était un chant en breton. Vous parlez breton ?
Je ne parle pas le breton suffisamment pour être bien compris, mais je me souviens du chant de Noël que les petits garçons qui allaient quêter, en quelque sorte,
des friandises ou des pièces dans le village chantaient. C'était « Quand âme Noël, 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 quand âme Jésus, sur salver, quand âme Noël. » Le refrain.
Et alors, on ouvrait
on
la porte.
Ça, et alors, on ouvrait la porte et on tendait la main et on vous donnait une pièce ou un petit jouet ou une friandise.
Beaucoup d'appels d'auditeurs, dans l'ensemble plutôt content. Hein. Il n'y a pas d'appels de reproches. Je signale que pour les injures, le 3615 Libre Journal est parfait. J'ai créé, enfin c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un ami qui s'appelle Arnaud Maillet qui a créé un 3615 Libre Journal, ce qui permet à certains de me téléphoner, enfin de m'envoyer des injures. Ça rapporte 2 francs 23 la minute, c'est très bien. On peut gagner des sous en se faisant engueuler, c'est super. Alors voilà, c'est un auditeur qui dit « Bienvenue à Jean-Marie Le Pen et joignez un œil pour tous ». Pouvez-vous nous parler de la période que vous avez passée chez les bons pères de Saint-François-Xavier à Vannes pendant la guerre, au moment où le collège était investi par les Allemands? Avez-vous quelques souvenirs du révérend père Dutilleul, alors préfet des études et surnommé le Négus, que vous avez sûrement rencontré? Je n'étais moi-même alors qu'un petit sixième et vous deviez être en première divie. Et je ne savais pas encore que j'étais si proche de vous, alors physiquement et maintenant intellectuellement, dit cet élève de Saint-François-Xavier de Vannes.
Je garde un souvenir très très précis des années que j'ai passées comme pensionnaire chez les jésuites du très grand et très beau collège qui était Saint-François-Xavier, qui fut d'ailleurs occupé par moitié depuis le début de la guerre par un hôpital militaire français et ensuite par un hôpital militaire allemand jusqu'au jour où les graffitis un peu injurieux pour la Strasse, n'est-ce pas, ont donné prétexte à l'armée allemande de réquisitionner l'ensemble du collège et de nous licencier, comme on disait à l'époque. Alors en l'occurrence, en ce qui me concerne, à la fin de la troisième. Et j'ai très bien connu le père du Tilleul, bien sûr, et son bureau avec une porte capitonnée dont on disait qu'elle était capitonnée pour empêcher d'entendre les cris des malheureux qui étaient fouettés dans son bureau. Le père du Tilleul, je crois d'ailleurs me souvenir, était un ancien militaire entré dans la compagnie de Jésus. Il avait une certaine ressemblance avec le général de Gaulle, parce qu'il était un homme maigre avec un gros ventre, n'est-ce pas? Mais je me souviens en particulier d'un... On le craignait, bien sûr.
Il n'était pas en Angleterre.
Non. Mais le père du Tilleul, je me souviens d'un épisode extrêmement émouvant et dramatique, parce que le père du Tilleul, qui portait bésicle, était un homme grand, est arrivé dans la salle du réfectoire et il nous a dit avec la gorge prise par l'émotion, il nous a dit mes chers enfants, ce matin la flotte française s'est sabordée à Toulon. Et pour les petits garçons comme moi qui rêvaient de devenir officier de marine, c'était pour un fils de patron pêcheur le rêve absolu, n'est-ce pas, d'entrer dans cette caste presque inaccessible, eh bien c'était un rêve qui s'écroulait et un grand chagrin patriotique. Et je le vois encore avec des larmes qui lui coulaient sur... On ne le croyait pas capable de telles émotions, parce qu'il représentait pour nous le père Fouettard, et l'ami qui téléphone cela aura certainement gardé le même souvenir que moi, surtout s'il était en sixième à ce moment-là.
C'est curieux, ces souvenirs, ça fait penser... Jean-Pierre Stirbois racontait toujours l'origine de son engagement politique. C'est le jour où il a appris en classe la chute de Dien Bien Phu. Et moi, un de mes souvenirs les plus forts, c'est au moment de la guerre d'Algérie, quand on nous a dit, voilà, l'Algérie est perdue. C'est des choses qui... J'étais dans une école militaire à l'époque.
Oui, mais c'est très français, ça, je dirais. Serge, malgré vos origines un peu slaves, c'est très français. Et c'est d'ailleurs pas étranger au fait que les grandes fêtes militaires françaises sont des fêtes de défaite. De défaites glorieuses, c'est parce que depuis Alésia jusqu'à Dien Bien Phu, si on veut, et ces fêtes
c'est le sursaut. On atteint ou on croit atteindre le fond du puits, et puis là il y a une espèce de coup de talon et on remonte après d'avoir connu les épreuves les plus dures vers une réalité plus riante.
Il n'y a pas qu'en France qu'on célèbre les défaites. Regardez en Angleterre aussi, Waterloo Station, Trafalgar Square. C'est aussi des défaites. Alors, une auditrice dit, Jean-Marie Le Pen, vous n'avez plus d'amis que d'ennemis, et vous demande si vous avez vu la très belle crèche napolitaine du Louvre des Antiquaires.
Non, malheureusement.
Et ça me fait penser à une chose. Je me promenais, c'est pas plus tard qu'avant-hier, dans Paris, et c'était beau, il y avait des boutiques, il y avait des vitrines, tout ça, et j'ai pensé à vous, et en rentrant à la maison, je dis à ma femme, tu sais, j'ai pensé à Jean-Marie, parce que ça doit être absolument épouvantable de ne plus pouvoir faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire de me balader pendant une heure, voilà, incognito dans Paris, incognito dans mon cas, c'est pas étonnant, mais sans penser à autre chose qu'à regarder. Est-ce que vous souffrez de ça, de cette impossibilité d'être un quidam?
Oui, tout à fait. Je ne marche jamais seul, pour ainsi dire. Et par conséquent, je suis un peu victime comme l'étaient sans doute les gens de la cour, d'une étiquette rigoureuse qui ne m'interdit pas évidemment de toucher la main ou d'aller dîner, etc. Mais en fait, j'ai toujours quelqu'un avec moi, et dans les grandes foules comme cela, ce n'est pas que je craigne l'inimitié des gens. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, c'est au contraire l'amitié, mais on me l'interdit à cause du risque d'une agression solitaire ou de choses comme ça. Moi, alors, cette année, je n'ai pas pu aller à la crèche, mais la crèche est venue à moi. C'est un garçon qui est magasinier dans un grand journal et qui m'a apporté la crèche qu'il a fait de ses mains. Parce que c'est un pupille de la nation, et il a fait une crèche, et il me l'a apportée, et pour moi, c'est la plus belle de toutes celles que j'ai mises sur ma cheminée, parce qu'elle a été faite par un inconnu, avec le sentiment d'affection et d'amitié. Puis de l'autre côté, j'ai quelque chose qui vous toucherait, mais je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu, je crois d'ailleurs, c'est une très belle icône,
oui,
de Saint-Nicolas.
Magnifique icône de Saint-Nicolas.
Qu'on m'a offert lors de mon dernier voyage en Roumanie, et qui est peinte, comme toutes les icônes, de la même façon qu'au 15e ou au 16e siècle.
Elles sont
immuables.
Dans la prière, elles sont peintes.
Mais elles témoignent dans le visage de quelque chose qu'on ne voit plus sur le visage des princes de l'Église, ni parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de saints. C'est de la ce que j'appellerais la beauté-bonté. N'est-ce pas, la beauté qui est constituée par la douceur et la bonté qui émane des traits, du regard, de l'attitude. C'est quelque chose qui était courant autrefois.
Ce qui était stupéfiant quand on voyait Monseigneur Lefebvre.
Oui, absolument.
Alors là, il y avait cette lumière.
Monseigneur Lefebvre, je me souviens de Monseigneur Treilloux, de Monseigneur Le Bellec quand j'étais petit garçon, et qui rayonnait littéralement comme le faisaient les grands professeurs de médecine. On a l'impression qu'ils sont illuminés de l'intérieur.
J'en ai eu la chance de voir
quelques-uns comme ça, une aura. Voilà. C'est exactement l'aura. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion, notamment à la télévision, de voir des gens qui respirent comme ça la bonté et l'amour de leur prochain.
Alors, d'autres questions, enfin beaucoup de remerciements à Joyeux Noël de la part d'une fidèle qui n'a jamais abandonné Jean-Marie Le Pen depuis la Corpo de droit.
Ah, mon Dieu, voici qui nous rajeunit. Oui.
Merci à tous deux et à Radio Courtoisie de nous offrir cette soirée. Je signale à Serge de Beketch, nous dit probablement Martin Pelletier, que National Hebdo, il y a 2 ans, a publié les souvenirs de Noël de Jean-Marie Le Pen.
Ah,
on ne fait que copier.
Mais oui, le malheur des journaux, c'est qu'on y voit quelquefois des choses excellentes, dont en particulier ce récit, mais c'est le papier s'en va. Voilà. Et même les très beaux articles disparaissent. Ils ont ceci de commun avec le bon vin et les huîtres, c'est qu'on ne les regarde et on ne les goûte qu'une seule fois.
À propos de crèche, on nous signale une très belle crèche à Saint-Nicolas-du-Chardonnay.
Ah, sûrement.
Elle est merveilleuse, elle a été renouvelée cette année, nous dit-on. Il y a une autre très belle crèche qui est la crèche vénitienne, qui se trouvait traditionnellement devant l'hôtel de ville, qui cette année a été transférée devant Notre-Dame, où elle est plus à sa place, si vous dire.
Oui, c'est vrai. Là, elle ne subit pas la concurrence du parvis de l'hôtel de ville.
Du parvis de l'hôtel de ville avec la représentation, l'écusson qui représente la nef de Paris, vous savez. Il y a une mosaïque devant l'hôtel de ville qui représente la nef parisienne, fluctuate. Nec mergiture, mais quand on la regarde à l'envers, ça ressemble à une ménorah.
C'est ça.
C'est assez amusant. Alors évidemment, quand on construisait la crèche sur la ménorah, ça pouvait choquer. Maintenant, il y a une patinoire, c'est beaucoup moins.
C'est ça.
Cher Jean-Marie nous dit, cher Serge, dit un auditeur, permettez-moi de vous nommer familièrement par vos prénoms pour vous dire le bonheur que vous nous donnez ce soir en sacrifiant sur vos propres veillées de Noël pour cette émission si originale et presque familiale. Mais moi, je vais vous dire un secret, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, Jean-Marie Le Pen, mais moi, je suis bien content d'être là, parce que pendant ce temps-là, chez moi, tout le monde s'agite pour préparer le réveillon, et moi, je n'ai pas à ouvrir les huîtres.
Absolument.
Une auditrice nous dit que le ravi de la crèche, c'est généralement l'innocent du village qui apporte le bonheur à tous.
C'est vrai. Les villages, on était heureux autrefois d'avoir un innocent et de l'entretenir parce qu'il portait bonheur. C'est vrai.
Ça a beaucoup changé, ça.
Oui.
Aussi. Alors, un auditeur nous remercie aussi de cette idée d'évoquer les Noëls d'autrefois et nous dit, connaissez-vous les textes de Jean Guéhenno sur ses Noëls d'enfance dans Changer la vie, où il évoque l'attente de la messe de minuit et l'orange merveilleuse reçue comme unique cadeau. Je crois même que c'était un sujet de dictée, si je ne me trompe pas, quand j'étais petit garçon.
Il y avait aussi, je ne sais pas, on en a parlé un jour, je pense que c'est un auteur russe, c'est le petit garçon russe à qui on remet une pêche.
Ah oui.
Je crois que c'est Sacha, il s'appelle Sacha, et on lui offre une pêche, il n'avait jamais vu une pêche. Et vous savez, pendant la guerre, il n'y avait pas d'orange. Les petits garçons d'après-guerre ne connaissaient pas les oranges, parce que pendant toute la guerre, on n'a pas reçu, sauf dans le midi où il y en avait.
Ça me rappelle un souvenir très, très pénible, je ne plaisante pas. Hein. Un jour, on avait fait, mon fils aîné, Cyril, que vous connaissez, devait avoir 5 ans, 6 ans. Et pour lui faire une farce, son parrain, qui était Jean-Claude Goudot l'époque de Minute, lui avait préparé un très beau colis. Il y avait bien d'autres cadeaux qui étaient restés cachés. Et là, il lui a offert le soir de Noël un paquet qui était très beau et mon fils a soigneusement démailloté. Et à l'intérieur du paquet magnifique, il y avait un saucisson. Et Cyril a commencé à pleurer.
Ah mais oui,
parce qu'il n'a pas caché sa déception,
mais
oui, lui.
Non, mais c'est exactement comme quand on nous faisait un cadeau sous la forme d'une belle paire de chaussures. Voilà. Quelquefois les oncles et les tantes qui savaient qu'on manquait de ces choses-là, eh bien vous offraient un cadeau d'une grande valeur, mais qu'on aurait échangé pour un jouet beaucoup plus modeste, mais qui était un vrai jouet. Parce que là, c'était un objet utilitaire.
Mais alors là, le saucisson, il a éclaté en sanglots, et ce qui a été terrible, c'est qu'il a pleuré, et en même temps, il commençait à avoir, comme les enfants de cet âge, une petite notion de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Il avait honte en même temps de montrer sa déception.
Oui,
et on n'a pas pu le réconforter.
Oh mon Dieu.
Et on sortait les autres cadeaux ensuite, et ça n'a pas été rompu.
Non,
c'est resté une blessure en moi.
Oui, mais je comprends ça. Je comprends très bien ça.
Merci, cher Président, d'être parmi nous ce soir. C'est un plaisir de vous entendre. J'aimais le vœu que vos adversaires apprennent, que nos adversaires apprennent un peu mieux à vous connaître et à connaître l'homme que vous êtes, duquel se dégage l'intelligence, la culture et beaucoup, beaucoup d'humour. Ça, oui, c'est ce que je voudrais tellement que ce genre d'émission serve à montrer qui vous êtes vraiment, plutôt que de laisser circuler ce portrait en père fouettard qui est tellement grotesque. Voilà, le colonel Chauchard, ancien du putsch, adresse ses remerciements à tous et ses vœux les plus amicaux et nous dit continuons le combat.
Absolument.
Ah, ça c'est bien.
Absolument.
Alors une question indiscrète, où allez-vous à la messe de minuit cette année? Avec votre famille, dans l'église la plus proche de
vous. Absolument.
Alors, joyeux Noël à toute l'équipe et à Monsieur Le Pen. Est-il exact qu'Olivier de Kersauson a navigué avec Jean-Marie Le Pen lorsqu'il était jeune, nous demande un auditeur.
Eh bien écoutez, je vais vous dire mieux que ça. Je peux dire que Olivier de Kersauson a fait son éducation maritime sur mon bateau pendant plusieurs années. Le général Cambronne, il a été on peut dire Mousse, Matelot et Bosco. Et quand il a écrit ses mémoires, il a dit « J'ai appris à naviguer avec Gaston Defferre ». Il est vrai que ça passe mieux dans le triangle, non pas des Bermudes, mais dans le triangle RTL, France Info, Luxembourg. Oui. on a plus de chance de se faire embaucher.
En plus, il s'agit de savoir dans quelles eaux il a appris à naviguer avec Defferre, c'est ça surtout.
C'est un bon marin.
Oui, c'est un bon
marin. Je l'ai mieux en mer qu'à terre.
Oui, même sous l'eau, il aurait été encore mieux d'ailleurs. Oh. Votre enfance bretonne n'a-t-elle pas été influencée par Anatole Lebras et Paul Féval ? Me demande un auditeur.
Oui, et tant d'autres, parce que la lecture, c'était pour moi l'évasion. Quand on me demande quel est le livre qui vous a marqué, je me refuse à le dire parce que il m'en vient tant à l'esprit depuis Jules Verne. Mon père avait une bibliothèque d'honnêtes hommes du XXe siècle avec la collection Nelson.
Ah, merveilleuse collection
Nelson, dont j'ai encore une centaine de livres, et où j'ai appris, je peux dire, les poètes et aussi bien sûr les romanciers
du
XXe siècle. C'était je lisais énormément, j'allais dans le grenier lire quand je n'allais pas déchirer mes pantalons, dénicher les nids ou chercher des berniques à la côte.
Vous aviez des livres lire. Pour Noël.
Comment?
On vous offrait des livres
bien
pour
sûr,
Noël.
Bien sûr, de très jolis albums, et j'avais une superbe collection d'albums de Mickey. Malheureusement, dans un déménagement, tout a été perdu.
Déménagement valent un incendie.
Ou volé, absolument.
Ça, maintenant, vous auriez une fortune. Là,
ah, mais oui. D'autant que j'en avais, je sais pas, une trentaine. Mickey contre Ratineau, etc.
Et Patibulaire aussi.
Oui, Patibulaire. Il y avait toutes les autres séries, les Croquignoles, Riboulding et Fiochard.
Bien éclairés.
Ils sont tout à fait d'actualité. Oui, ils pourraient s'inscrire au RPR, ou à l'UDF.
Bien éclairés sont au point.
D'autant que là, je crois, on embauche.
C'est vrai que Forton, c'est dommage qu'il nous ait quitté. Comment? Parce que Forton, l'auteur des Pieds et Clés, il est dommage qu'il nous ait quitté parce qu'il aurait pu donner libre cours.
Oui.
Je sais pas si vous avez remarqué,
d'ailleurs, que
Chirac ressemble à Filochard.
Oui, vous trouvez? Mais Filochard avait un bandeau sur
non, pardon, pas Filochard, Croquignole.
Croquignole.
Il ressemble à Croquignole.
Croquignole, Riboulding et Filochard. Mais il y en avait d'autres. C'est Alain Saint-Augan, c'était Ziguépus.
Ah, Ziguépus, bien sûr.
Et puis alors, toutes les bandes dessinées américaines, il y a beaucoup de bandes dessinées françaises.
À propos de Saint-Augan, il y a une histoire qui m'a été racontée par Michel Gregg, vous savez, le père d'Achille Talon, que je trouve extraordinaire. Saint-Augan, un jour, part au marché pour acheter du poisson. Et il voit une carpe superbe chez le marchand de poisson. Il achète la carpe. Et arrivé chez lui, avant de la préparer, ne sachant pas qu'en faire, il la met dans la baignoire, il met un peu d'eau pour qu'elle reste fraîche, pour le temps que sa femme arrive pour préparer la carpe. Et quand sa femme arrive, il dit, la carpe est dans la baignoire, va la chercher. Sa femme pousse un hurlement, il dit, mais elle est vivante, la carpe. Alors il se précipite dans la salle de bain, et dans la baignoire, effectivement, il y a la carpe qui est toujours vivante, comme le canard de l'histoire. Et Saint-Augan, qui était un homme adorable, qui était incapable de tuer une mouche, bien entendu, a été infoutu de tuer cette carpe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la carpe dans la baignoire, il a appelé un maçon, et il a fait construire dans le jardin de sa maison un bassin pour la carpe.
Oui, c'est drôle.
Qui a vécu 40 ans dans le bassin.
Ah oui, c'est drôle ça.
Voilà, c'est une très jolie histoire.
Ah, oui, absolument.
De Noël. Je ne sais pas si c'était une carpe de Noël.
Une image qui plaira à tous les amis des animaux.
Ouais. Enfin voilà le genre de personnage qu'était Alain Saint-Augan, qui était également... quelqu'un qui n'aurait probablement pas répugné à passer un bon moment avec vous.
C'est... Oui, je crois qu'il y en a un certain nombre d'autres qui ont même été accusés a posteriori, comme Wagner a été accusé d'avoir été hitlérien avant la naissance d'Hitler, simplement parce que Hitler aimait Wagner. Eh bien, le pauvre Wagner s'est trouvé rangé dans la liste des auteurs maudits.
Vous savez, je crois que c'est Emmanuel Ratier qui faisait remarquer récemment dans sa lettre que le danseur Patrick Dupont, invité à une émission récente a dit, mais moi, le Front National, vous comprenez, c'est l'horreur, Le Pen, c'est l'horreur, parce que moi, je sais ce que c'est. À l'école, j'ai connu des petits amis qui avaient tellement souffert des persécutions antisémites. J'avais beaucoup de petits amis juifs qui avaient tellement souffert des persécutions antisémites, etc. Ce qui est, il devait être dans une classe pour attarder, puisqu'il est né en 1959. Donc, pour avoir été en classe.
Oui,
avec
mais c'est vrai. Ça, c'est comme les anciens, un certain nombre de faux anciens combattants et de faux anciens résistants. À force d'avoir entendu et lu les histoires, ils finissent par croire qu'ils ont participé à ces combats alors qu'ils n'étaient pas nés au moment où ils se déroulaient.
Il y a une très très belle, un très beau gag dans une biographie de Chirac qui raconte que Chirac a reconnu sa première émotion patriotique et résistante en entendant le sabordage de la flotte à Toulon.
Oui.
Il a entendu, il habitait à 100 km de Toulon,
oui.
Il a entendu les explosions, il a su que c'était les bateaux.
C'est d'ailleurs une des énigmes de sa vie, qu'il ait passé son enfance et son adolescence pendant la guerre, en dehors de la présence de ses parents.
On a dit qu'on ne serait pas méchant ce soir.
Oui, pardon.
C'est vous qui l'avez dit.
Non, je ne suis pas méchant, c'est le petit côté de mystère, ça.
Un autre salut de la part d'un ancien de la course, mystère de Noël. Voilà,
absolument. Voilà, le mystère de Noël.
Un ancien de la Corpo, 47, qui salue Jean-Marie Le Pen et qui dit que ça me rappelle Ferdinand Lope. Pas vous, probablement,
oui,
mais la Corpo.
Ferdinand était un homme admirable. Il était candidat à la présidence de la République. Et il avait d'ailleurs un adversaire qui s'appelait Achille. Achille, je ne me souviens plus comment, et qui était l'inventeur du canotier tricolore. Alors que Ferdinand Lope, lui, voulait prolonger le boulevard Saint-Michel d'un côté jusqu'à Brest et de l'autre côté jusqu'à Vladivostok. C'est un précurseur du mondialisme.
Ah, de Gaulle qui parlait de la...
Non, il s'arrêtait
à l'Oural.
L'Oural.
Oui,
tandis qu'il allait beaucoup plus loin.
Et
alors, ses ennemis étaient comment, il voulait changer le nom du métro, l'appeler métro Lopitain au lieu de métropolitain. Et il était un adversaire farouche des antilopes.
Bien sûr, ça va sans dire. C'est de l'autodéfense dans son cas. Parmi les auditeurs qui écoutent Radio Courtoisie, l'émission de Serge de Beketch qui reçoit Jean-Marie Le Pen, un auditeur dit, vous propose une réponse à votre slogan « Tenez bon, nous arrivons ». C'est « Tenez bon, nous comptons sur vous ».
Ah oui, c'est « Tenez bon, on arrive ».
« Tenez bon, on arrive ».
« Tenez bon, on arrive ».
Alors il vous dit « Tenez bon, on compte sur vous ». Le pape Jean-Paul II, nous dit un auditeur, fait partie de ces gens qui respirent la beauté, la bonté et l'amour du prochain. Merci et joyeux Noël.
Oui, c'est vrai. Le pape, c'est vrai.
Merci et joyeux Noël. À la messe de minuit, nous prierons pour vous. Ça, c'est très gentil, on en a besoin. Un auditeur dit, à propos du mauvais tour qu'on avait fait à Cyril de Beketch, en règle générale, il ne faut jamais faire de tour aux enfants.
C'est vrai.
Et en particulier aux enfants, dit-il. C'est vrai, parce qu'on ne mesure pas...
Pas d'humour au second degré avec les enfants. Ni non plus avec les grandes personnes. Vous savez que nous travaillons actuellement, notre équipe travaille sur un projet d'affiche que je trouve tellement merveilleux que comme on risque pas de nous la voler, nous voler l'idée, je vous en fais la primeur ce soir. Ce sera le cadeau de Noël que je mettrai dans votre sabot. C'est une affiche où l'on voit, un peu comme dans les poupées gigognes russes, on voit Lénine, Staline et Robert U. Et au-dessus, il y a 100 millions de morts, et au-dessous, il y a prolétaires de tous les pays, pardonnez-nous.
Ah, c'est très joli. Robert U, on le connaît en âne jardin, mais on l'avait jamais vu en babouchka.
Voilà,
babouchka, c'est joli.
Il est arrivé trop tard, oui, dans un moment trop vieux.
À propos de ressemblance, un auditeur nous fait remarquer que, puisqu'on parlait de Chirac qui ressemble à Ribouldin, vous parlez de Robert Rue qui ressemble à, je sais pas quoi d'ailleurs.
Un nain de jardin.
Et cet auditeur nous dit, Jospin ressemble à Harpo Marx.
Un peu.
Hein, c'est vrai, Harpo Marx de Marx Brothers.
Il a le côté un peu exorbité. non mais c'est vrai.
Et blond un peu comme ça.
N'allons pas trop loin.
Et voilà, une adhérente.
Il était sourd d'ailleurs, je crois, Harpo.
Non, non, il était absolument normal.
C'est pas le sourd?
Ah, non, c'est celui qui joue le rôle du muet.
Ah, le muet, le muet.
Mais en réalité, il était pas muet du tout.
Non, c'était ça.
Surtout un fou des cartes et il disparaissait sous n'importe quel prétexte et on le retrouvait dans les tripots environnants en train de perdre sa culotte.
Ah, ils étaient
d'ailleurs, au sens propre du terme, puisqu'un jour, son père, qui était fabricant de culottes, son père était alsacien. C'est une famille de juifs alsaciens qui avait immigré aux États-Unis.
Et son père était... Je savais pas qu'ils étaient français d'origine.
Son père était le plus mauvais tailleur de Brooklyn, disait-il.
Et un jour, il avait... tes vêtements n'ont pas de style.
Et alors, il avait envoyé son fils livrer un pantalon qu'il avait taillé pour un type, et le fils est parti, donc Harpo est parti, et puis le type qui attendait son pantalon pour un mariage, je sais pas quoi, a téléphoné, où est venu? Il n'y avait pas le téléphone à l'époque, en disant, mais j'ai pas reçu mon pantalon, et donc Harpo était parti, il avait vendu le pantalon, et il jouait le fric du pantalon dans un bouge, dans un tripot infâme. Voilà, beaucoup de vœux de Noël. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'Anatole Lebras, enfin une auditrice vous demandait si vous lisiez Anatole Lebras, parce que c'est quand même un des grands auteurs de la tradition bretonne. Et quand, en préparant cette émission, je me disais, mais un enfant breton du demi-siècle a dû entendre parler dans son enfance de toutes les légendes, surtout dans les soirées, dans les veillées de Noël, on devait raconter toutes ces légendes dont crépite littéralement la langue bretonne.
Tout à fait.
Alors je me suis amusé à rechercher dans deux ouvrages qui sont des merveilles, je les conseille comme cadeau de Noël ou comme cadeau d'étrenne, c'est un peu tard pour le Noël, mais c'est la grande encyclopédie des lutins et la grande encyclopédie des fées qui ont été publiées chez Eubeck éditeur, rue du Dragon à Paris, c'est par Pierre Dubois qui est elficologue.
Ah. Hein.
Et illustré par Claudine et Roland Sabatier, ce sont de pures merveilles, mais vraiment des splendeurs. Et alors, je me suis amusé à rechercher les lutins, enfin les personnages du petit monde,
bien sûr,
du petit peuple
souterrain,
qui ont trait à la Bretagne. Alors c'est stupéfiant, mais vous êtes, enfin la Bretagne est un pays où il y a bientôt plus de lutins que de...
Ah ben oui,
que d'humains.
Il y a beaucoup de lutins, quelques mutins, mais aussi...
Oui,
dans à Brest. Politique,
oui. À Brest surtout. Alors, j'ai trouvé des personnages. Il y a le Houpou. Il y a le Hooper. Est-ce que vous connaissiez le Hooper?
Non, ma foi, non.
Qui habitait de gros rochers remarquables par leur dimension et l'étrangeté de leur pose, à quelque distance des menhirs. Il était expiègle et parfois méchant, et on croyait que c'était un esprit malade voltigeant dans l'air, tantôt à droite, tantôt à gauche. On entendait à une heure avancée de la nuit son cri strident... qui semblait partir du menhir.
Et non, je connaissais les Corrigans.
Il y a le
Corrigan.
Il y a le Jean du Rivage. Il y a le Poutre Pen Erlo.
C'est le garçon.
Voilà.
Le Pen Erlo.
C'est la tête de...
La tête de je ne sais pas quoi. Poutre, c'est garçon.
Il y a le Colipor Endro.
Ah, Porendro, oui. Il y a à Carnac, il y a un lieu dit qui s'appelle Porendro.
Il y a le Bégule Anaode.
Un Bégule, c'est un berger, un, comment dit-on, oui, un petit garçon qui garde les vaches, un Bégule.
Alors, donc, ça, c'était dans l'île d'Ars, dans le Morbihan.
Ah oui.
Il faisait disparaître les navires.
Dans le golfe du Morbihan, l'île d'Ars est une île très particulière, dont la moitié de la population était officier au long cours, dans la marine marchande, et l'autre moitié, matelot. Les deux castes, en quelque sorte, cohabitaient.
Il y a le braillard et le criard, qui sont deux versions.
Oui, c'est des goélands, ça, non?
C'est pas précisé.
Vous savez qu'il y a aussi le. Disait-on dans la marine en bois, on appelait Kersauzon comme ça à un moment donné. C'est l'oiseau biligou.
Oui.
C'est l'oiseau qui, quand il se pose. Dans la mature, notamment dans les grandes tempêtes, c'est l'oiseau qui annonce le naufrage, oui, ou même le naufrage du bateau. L'oiseau biligou, c'est l'oiseau porte-malheur.
Les braillards, c'était des esprits, enfin des lutins, hein, des gens du petit peuple, qui poussaient des cris plaintifs la nuit. Quand le vent soufflait avec violence sur l'île de Noirmoutier, les marins croyaient entendre des naufragés qui réclamaient leur aide, se jetaient à l'eau et nageaient à leur rencontre. Mais plus ils avançaient, plus le courant semblait emporter les braillards. Ils reculaient jusqu'à ce qu'ils eussent entraîné leurs bienfaiteurs
au bord d'un précipice, alors il se soulevait au-dessus des vagues, riait bruyamment et disparaissait.
C'est le petit peuple qui a beaucoup souffert, ça.
Ah ben, qui a beaucoup fait souffrir, surtout. Alors les Korrigans, voilà, les Korrigans. Vous connaissez l'histoire du Korrigan qui est racontée, comment un jeune Morbihanais, qui s'appelait peut-être Jean-Marie, va
peut-être,
savoir,
oui,
a sauvé les Korrigans, car un jour il a été entouré par une bande de Korrigans qui se pressaient tout autour de lui, tout noirs, vous voyez déjà, hein, avec leurs griffes de chat. Mais il n'avait pas trop peur, car il tenait en main son karspren. Vous savez ce que c'est un karspren ?
C'est un bâton, non ?
Ben oui, exactement. C'est une petite fourche de bois dont on sert pour nettoyer le socle de la charrue.
Ah ben oui.
Et qui a l'avantage de préserver des malices des Korrigans.
Ah ah.
Ouais, donc il faut toujours avoir son karspren sur soi.
Un petit bâton magique.
Et voilà, les petits cornus menaient grand tapage, transpirant sang et eau, tout en beuglant inlassablement le même lancinant refrain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On dirait une chanson de Bruel, pratiquement.
Oui.
Et alors, chaleureusement invité à se joindre à la danse, le nouveau venu amusé ajouta de sa plus belle voix, avec le dimanche aussi, et voilà la semaine finie. Et alors, à sa grande surprise, les Korrigans l'ont acclamé. C'est quand même, à mon avis, ça s'appelait Jean-Marie, il n'y a pas de problème.
Oui, c'était un parolier. En fait.
Parce que, vous savez pourquoi ? Ils l'ont récompensé en lui offrant un sac de feuilles sèches qui se révéla au matin être un sac de pièces d'or. Donc déjà, on sait que ce n'était pas un homme politique, parce qu'en général, il vous a...
C'est l'inverse.
Et alors, pourquoi ils ont eu cette réaction ? Eh bien, tout simplement parce que le petit peuple des Korrigans était frappé par une malédiction qui les obligeait à danser jusqu'à la nuit des temps, en chantant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Jusqu'au jour où quelqu'un viendrait les libérer.
En annonçant le dimanche.
Avec le dimanche aussi, voilà la semaine finie. Ça fait penser à l'histoire, à une affiche que les Américains ont faite, où on voit une grenouille qui dit « embrasse-moi ». Il faut embrasser beaucoup de grenouilles avant de trouver un prince. C'est joli aussi, ça. Alors, les Korrigans, les farfadets, vous connaissez.
Farfadets, bien sûr.
Les farfadets, les follets, les folles et les fradets.
Oui, bien sûr, les feux follets.
Ils sont de par chez vous. Et leur habitat, c'est les rives des pays celtes. Alors oui, donc on est en plein. Il y a le mourioche, qui est un animal tout à fait... c'est pas un animal, c'est un homme qui, à force de méchanceté, est devenu... c'est en quelque sorte racorni en...
C'est ça.
C'est confiant en méchanceté.
Oui.
Alors, il y a le Caranaras, encore un... Mais enfin, vous... je ne veux pas tous les lire.
Mais vous croyez qu'il y a tout ça encore chez moi ?
Ah, moi, je suis certain.
Ils n'ont pas disparu ?
Mais écoutez, je crois que vous allez me suivre, parce que quand j'ai appris l'existence des lutins et des fées à mes enfants, ils ne voulaient pas croire. J'ai dit, il faut vous dire une chose, chaque fois que vous ne croyez pas à un lutin, il disparaît un lutin. Donc, forcément, croire au lutin...
C'est la foi qui fait naître le lutin.
Le Seigneur nous a dit, avec un peu de foi, tu peux dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. Donc, c'est plus difficile de sauter une montagne dans l'eau que de croire à un lutin.
Oui.
Moi, je crois que...
Eh bien, écoutez, la prochaine fois que j'irai chez moi, à Carnac, là, à Trinité, je vais aller me promener dans les menhirs. Si toutefois on a retiré les barbelés que la mairie a fait mettre autour, et puis, mais c'est vrai que, vous savez que quand des amis me disaient, on va aller voir les menhirs, je refusais. Je leur disais, non, c'est pas, il faut pas aller voir les alignements de menhirs comme ça. Il faut attendre, faites-moi confiance. Et alors, j'attendais qu'il fasse mauvais, et qu'il y ait un peu de lune, c'est les grands, gros nuages, blanc le jour, noir la nuit, qui se poursuivent dans le ciel, poussés par le vent d'ouest. Et alors, je les amenais par les chemins creux, griffés par les ajoncs, tu sais, battus par le vent. Et alors, quand ils avaient vu les menhirs et les dolmens, même comme ça, alors évidemment, ils en avaient une toute autre appréhension qu'en arrivant en voiture à la queue leu-leu pour voir des alignements de pierre qui sont toujours décevants, somme toute, parce que maintenant, avec la télévision, on voit tellement de choses extraordinaires que ça leur paraît médiocre. Autrement dit, il faut entrer dans le jeu. Il faut avoir, il faut se donner une âme de lutin. C'est un petit peu comme dans Le Petit Prince. Tu aurais dû me dire que tu venais parce que si tu me l'avais dit, je me serais habillé le cœur.
C'est un petit peu ça.
Ouais. Il faut s'habiller un petit peu la sensibilité et l'imagination pour aller visiter certains sites comme ça qui sont des sites inspirés.
Quand vous retournez dans votre Bretagne, vous y allez très souvent à la Trinité?
Non, enfin, malheureusement pas aussi souvent que je le souhaiterais, mais j'y vais toujours pour les fêtes de piété en tout cas, et j'y vais un petit peu voir mes enfants l'été car ils adorent la Trinité, les petits-enfants aussi, je crois que ça se transmettra, j'espère, le plus longtemps possible.
Et est-ce que vous avez un sentiment que ce pays a perdu quelque chose, ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que c'est encore une région dans laquelle il reste une
non,
force,
je dois une dire, tradition. Je dois dire que il y a un peu trop de voileux à mon goût, quoi. J'appelle voileux les professionnels sponsorisés de la voile, qui sont souvent des gauchistes.
Qui
pestent contre le capitalisme et ses représentants, alors qu'ils vivent de leur largesse, quoi. Voilà. Moi, j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Oui, Dieu merci, il y a des gens très bien aussi, pas de problème. Mais, un petit peu trop, peut-être, mais le paysage est resté le même. Et cela, grâce aux interdictions de construire, qui ont été établies, on a respecté à Carnac, c'est aussi vrai, le maire de Carnac, Bonnet, a fait respecter les marais salants. On ne s'est pas livré à cette rage de construction. Et il faut dire, les normes esthétiques ont été généralement très sévères et ont abouti à maintenir un espace authentique qui est tout de même une richesse remarquable. Ça, voir. Vous savez, il y a une chose qui... Je suis en train de lire un livre admirable, ça va encore me faire taxer, à tort d'ailleurs. Je suis en train de lire les mémoires de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, vous savez, fut la fameuse cinéaste des Jeux Olympiques de 36, qui avait été une grande actrice, une grande danseuse, une grande alpiniste, une grande skieuse, un grand metteur en scène, etc. Et puis, comme elle était persécutée après la guerre, elle va en Afrique, et là, elle découvre une tribu qui sont les Nouba. Et elle va les photographier dans de très grandes, très grandes difficultés, aux sources du Nil. Et elle a pu les photographier quelques mois avant que, revenant un jour, elle les voit affublés de blue jeans déchirés. Et voilà, c'est une page de l'histoire du monde, l'histoire d'une beauté sauvage qui a complètement disparu et qui restera vivante grâce à ces admirable photo. Vous savez qu'en plus, elle est devenue plongeuse sous-marine à l'âge de 73 ans et qu'elle a 95 ans, elle est à l'hôpital. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est un personnage d'une telle force, d'une telle vitalité, d'une telle envie de vivre à travers des épreuves extraordinaires qui nous font tout petit quand nous pensons à nos petits ennuis à nous. Et c'est long, ça a 1000 pages. Mais comme vie de femme, c'est très extraordinaire.
En somme, pour terminer, puisque notre heure, mais avec vous, ça prend l'impression que ça dure 10 minutes, notre heure et demie est terminée. En somme, j'allais vous poser pour finir la question, quel cadeau de Noël offririez-vous? Alors, c'est peut-être les mémoires de Leni Riefenstahl que vous conseillez.
C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Si vous avez des nuits d'insomnie, eh bien, vous les passerez agréablement. Et avec un certain avec le sentiment de confort que l'on a quand on entend la pluie et le vent battre une maison et les vitres bien fermées, une maison bien protégée, et quand vous êtes dans votre lit et que vous vous dites, mon Dieu, moi qui me fais tant de soucis, des problèmes qui sont les miens, quand on pense à ceux qui ont été ceux et celles de certains personnages, eh bien, on se retrouve tout de suite moins porté à pleurer sur soi-même.
Merci Jean-Marie Le Pen de cette veillée.
Cher Serge, c'est difficile, pour c'est vous, pour votre famille, pour vos auditeurs, permettez-moi de vous souhaiter un vraiment joyeux Noël, car c'est la Noël, c'est la fête de la joie.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous, c'est exceptionnel. J'espère que vous, maintenant je sais que vous allez rejoindre votre famille, votre grande famille, avec les filles.
Avec les filles,
tout le monde sera là,
les petits-enfants. Et tout le monde.
Ben écoutez, je sais, au nom des auditeurs, et en tout bien, tout honneur, vous le savez, au moins là, il n'y a pas d'ambiguïté, je vous embrasse.
Je vous embrasse.
Joyeux Noël.
Ici Radio Côtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous écoutez le libre journal de Serge Bekech, dirigé dans sa deuxième partie par Daniel Amiche, émission préenregistrée le 22 décembre et diffusée pour la première fois mercredi 24 décembre de 18h à 21h. Jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette deuxième partie est réalisée par Franck et par Denis. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir dans cette deuxième partie parce qu'elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Je vous rappelle, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs qui nous retrouvent, qui nous rejoignent pour cette seconde partie du Libre Journal de Serge Beketch, donc partie enregistrée à l'avance et que vous entendrez, si vous le voulez bien, donc dans la soirée de la vigile de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, le mercredi 24 décembre, ou bien que vous pourrez écouter, pour ceux qui ne peuvent pas l'entendre en direct, ou réécouter, pour ceux qui auront plaisir à reprendre leurs notes, le lendemain matin, c'est-à-dire le saint jour de Noël, le 25 décembre 1997. Évidemment, vous ne pourrez pas, chers amis militaires, poser des questions directement au téléphone, puisque je ne pourrai pas vous répondre, ni mon invité de ce soir. Mais vous pourrez nous envoyer un courrier, des questions, parce que je pense que le sujet que nous allons aborder ce soir sera de grand intérêt, puis il est assez topique par rapport à la festivité que nous vivons en ces jours, en ces heures, puisque Noël c'est aussi une fête liturgique et que j'ai le plaisir d'avoir dans le studio ce soir l'abbé Claude Barthes. Bonsoir monsieur l'abbé, qui vient nous parler d'un livre qui vient de paraître il y a quelques semaines chez l'excellent éditeur François-Xavier Guibert, que je salue s'il est à l'antenne, qui s'appelle « Reconstruire la liturgie ». Lourde tâche, aurait dit un général qui n'est pas de mes amis, et on va en parler ensemble longuement pendant près d'une heure, puisqu'avant j'ai quelques petites choses à dire. D'abord, bien sûr, et avant tout, joyeux Noël à ceux qui nous entendront en direct ou en rediffusion. Nous sommes heureux de faire cette émission en cette soirée tout à fait particulière, et nous adressons bien sûr nos voeux de Saint Noël à tous nos auditeurs, ceux qui nous font l'amitié de nous écouter depuis tant d'années, qui sont cotisants, qui soient d'ailleurs non cotisants, qui est d'ailleurs une espèce de vœu de fin d'année, on pourrait demander à tous ceux qui nous écoutent sans payer leur cotisation, de payer leur cotisation Radio Courtoisie, quand même la moindre des choses, ça serait pour bien commencer l'année, ce serait de gentilles étrennes pour notre station qui a, comme vous savez, besoin d'un peu de moyens pour étendre, pour continuer son travail, ça, j'allais dire sa mission, mais c'est vrai que ça s'apparente parfois une espèce de mission pour les Français, pour la France, pour la culture, pour notre foi, pour tout ce qui constitue notre identité nationale qui est aujourd'hui battue en brèche. Alors, j'avais une petite annonce à faire, parce qu'on m'a téléphoné aujourd'hui, donc cette émission est enregistrée le lundi 22 décembre. Merci Franck de me préciser ça, je ne sais même plus comment je vis. C'est Franck qui nous fait l'amitié d'assurer la technique de cette émission. J'ai reçu un petit coup de téléphone tout à l'heure pour indiquer, bien sûr, ça peut-être pas trop tard, puisque si nos auditeurs nous écoutent le 24 au soir, enfin en soirée, de 7h30 à 9h, peut-être que certains qui habitent le 77, peut-être à Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas, ne sauront pas où aller assister à une messe de Noël, à une veillée de Noël. Ben, on peut leur donner au moins une adresse, n'est-ce pas, pour ceux qui seraient perdus, puisque l'abbé de Tannouarn, que je salue également, que j'apprécie beaucoup, chantera donc la messe de minuit, bien sûr Henri de Saint-Pie-V, ça tombe sous le sens, au hameau de Courcelles, c'est dans une grange qui a été aménagée en chapelle. Ça peut penser à la Révolution, n'est-ce pas, à la Vendée, au Maine, au Poitou, à la Bretagne, n'est-ce pas. Les granges étaient souvent aménagées en chapelle.
Les tables de Noël aussi.
Tout à fait. Alors oui, aussi, par exemple, les crèches. Parce que si aujourd'hui nous avons, je pense que la plupart de nos auditeurs en ont fait une d'ailleurs, une crèche de Noël pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, si aujourd'hui dans les domiciles privés nous avons des crèches de Noël, c'est parce que sous la Révolution elles ont été interdites. Il n'y avait plus de crèches dans les églises, les églises étaient fermées, brûlées, transformées en urinoir ou en rosaire à chevaux ou à bœufs, c'est pas bon. Alors les gens, pour avoir leur crèche, ont commencé à la faire chez eux. Donc c'est depuis la Révolution française, au Félix culpa, n'est-ce pas, que l'on peut avoir une crèche chez soi. Voilà, il faut le savoir. Donc, l'abbé de Tannouarn chantera la messe de minuit Henri de Saint-Pie-V. Alors, ne demandez pas l'heure, la messe de minuit, c'est à minuit, précisément à minuit, au hameau de Courcelles, qui se trouve à Tournant-en-Brie. C'est donc en Seine-et-Marne, c'est la route de là où c'est, m'a-t-on dit. Donc la veillée commencera à 23h30, je pense qu'il y aura des petits chants de Noël, enfin, etc., jusqu'au minuit chrétien. Et alors on pourra se confesser à partir de 23h, ce qui est bien aussi de se confesser avant la messe, c'est pas plus mal. Voilà, donc messe de Noël le mercredi 24 décembre à partir de 23h30, disons, au hameau de Courcelles, à Tournant-en-Brie. Je dis ça uniquement pour les auteurs de Seine-et-Marne. Bien sûr, il y a énormément d'offices de Noël qui seront célébrés à Paris, dans le rite traditionnel, bon, à Saint-Eugène, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, enfin dans beaucoup de, peut-être à Saint-Odile aussi, enfin dans beaucoup d'églises, on célébrera le rite de Saint-Pie-V. Ceci dit, nous allons avoir tout à l'heure un débat très copieux avec l'abbé Claude Barthes, et on va voir que la liturgie est un problème très important, que le rite de Saint-Pie-V, moi je suis tout à fait pour, mais pour dans une négociation, n'est-ce pas? Dans une négociation, il faut avoir de quoi négocier. Hein, comme quand on joue au poker, il faut avoir quand même quelques bonnes cartes pour jouer au poker. Sans quoi, c'est pas la peine. Pour l'instant, on se cramponne sur le rite, on s'arc-boute sur le rite de Saint-Pie-V. Puis je voulais dire, et je demanderai également à M. l'abbé Boucoulbard de me donner son sentiment, puisqu'il a également parcouru ce livre. J'ai reçu un livre très émouvant, très émouvant, puisqu'il s'agit d'une conversion. Qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant que la conversion? Je crois qu'il n'y a rien de plus émouvant qu'une conversion.
Elle réjouit les gens, les anges dans
Elle
le ciel.
Elle réjouit les anges dans le ciel. C'est un livre magnifique, qui est en deux parties. Alors, le titre du livre, c'est « Ce que j'ai vu de Dieu ».« Ce que j'ai vu de Dieu ». L'auteur, c'est Bernard Gilardino. L'éditeur, c'est Pierre Tecky. Et la collection, c'est « Témoins de l'amour », sous-titré « Grande conversion ». C'est difficile d'en parler. C'est un livre qui est en deux parties. Il y a une première partie qui est une espèce de journal d'une conversion, d'une personne qui raconte sa conversion, un homme d'un certain âge, enfin à peu près dans notre tranche d'âge, disons qu'à l'abbé à moi, puisque nous sommes d'un excellent encru, comme chacun le sait, donc c'est un homme qui a une cinquantaine d'années, qui avait perdu la foi, mais on perd jamais en vérité la foi, qu'on la laisse plutôt, on la laisse s'éteindre, on la laisse un peu s'atrophier, et qui a, comme toujours, hein, de la manière la plus impromptue possible, la plus inimaginable possible, qui a été de nouveau ravi par Dieu. Je dirais pas que Dieu est un loup ravissant, mais il ravit. Et surtout, il arrive vraiment au moment où on ne s'y attend pas. Comme toujours, il nous surprend toujours. Il est la grande surprise de la vie humaine. Et c'est un récit très émouvant d'une conversion assez typique des Français de cette tranche d'âge, qui en ont vu beaucoup, qui ont oublié beaucoup de choses, et puis qui sont de nouveau saisis par Dieu au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur âme, et puis ça fait des conversions magnifiques, parce que c'est des conversions après très solides, très solides. Alors il y a deux parties dans ce livre, j'en reparlerai un jour. Il y a une partie donc qui est une espèce de journal qui est relativement court, ça fait une 60-70 pages à peu près, ça vous raconte
très sobre,
de manière un peu parlée, enfin comment s'est opérée cette conversion. Et puis après, il y a des méditations, je dirais des méditations, dont d'assez jolies méditations eucharistiques, qui s'appellent dans l'intimité du cœur de Jésus, et qui est un petit peu la méditation que ce nouveau converti a faite. À l'occasion de retraite ou dans le silence de son cœur chez lui, c'est vraiment remarquable. C'est de cette bonne théologie, cette bonne doctrine, c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous en pensez? Vous l'avez feuilleté un peu.
Je lui ne parle pas de Saint Augustin, mais manifestement il s'inspire du modèle des confessions. Enfin, du moins, il est rentré dans ce modèle de confession. À la fois parler de lui et en faire une prière. Oui, c'est le grand message, la conversion.
C'est une action de grâce, ce livre est une action de grâce.
Est-ce que peut-être l'Église est invitée à cela, justement, à la conversion? Que peut-elle dire aux hommes, sinon, convertissez-vous.
Convertissez-vous, oui. Enfin, c'est une belle contribution à l'amour de Dieu, en fin de compte, puisque ce livre déborde de l'amour de Dieu, et je trouve que c'est vraiment un livre formidable. Alors, je redis, c'est de Bernard Gilardino, Ce que j'ai vu de Dieu, chez Pierre Tecky éditeur. Alors en plus, c'est un livre, comme souvent les livres qui sont vraiment très bon marché, 78 francs. Vraiment, c'est pas cher, mais lisez-le. C'est la bonne période, la période de l'Avent qui va se terminer, puisque là, ça y est, on est déjà mercredi soir, donc on est déjà dans la joie de la naissance de Sauveur. Mais enfin, on va tirer un petit peu quand même, on va tirer jusqu'à l'Épiphanie et tout. C'est un beau livre, parce que la naissance du Sauveur est aussi, est déjà source de conversion.
C'est la descente dans les cœurs.
Voilà, c'est C'est superbe, vraiment un très 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 beau livre. Bernard Gilardino, Ce que j'ai vu de Dieu, chez Pierre Tecky éditeur, Témoin de l'amour, 78 francs. Ouf, ça console, hein, quand on lit des choses comme ça, ça console quand même de la dureté des temps.
Du désert spirituel.
Et du désert spirituel, du... Il y a quand même quelques oasis dans ce désert, cher abbé Claude Barthes, hein. Il y a quand même quelques oasis, et votre livre est un petit peu une oasis de ce désert. Alors, nous allons reparler d'un livre vôtre, qui est en fait un livre que vous avez fait en demandant des contributions d'un certain nombre de personnalités.
Voilà, c'est même le but du livre, de faire parler de ce problème liturgique, dès l'instant qu'on considère que... Il y a un problème liturgique qui est très grave, une crise très profonde, mais qu'un des aspects de cette crise, qui est, je crois, idéologique, hein, comme toute la crise du Concile pris au sens large, un de ces problèmes, donc, qu'on ne parle pas, qu'on n'a pas le droit de parler, qu'on n'ose pas parler, et que la parole, à juste titre, fait peur, parce qu'elle risque de crever pas mal de barrières, voire faire effondrer de murs. Mon idée, et je l'ai dit clairement à chacune des personnes
vous intervenant,
c'est il faut commencer à parler. Mmh. À parler librement, dire ce que l'on pense, pourquoi on n'est pas content, puisque on peut dire que je ne sonde pas les reins de ceux qui assistent à la liturgie de Vatican II, mais très très nombreux sont les mécontents, notamment parmi les acteurs, parmi les prêtres, parmi les évêques, pour des raisons très diverses d'ailleurs. C'est vrai qu'il trouve qu'on n'est pas allé assez loin, qu'on est allé beaucoup trop loin, que... Alors on commence à parler tout de même.
On va, si vous voulez, commencer par le commencement. On a déjà parlé, on va essayer de savoir ce que c'est que la liturgie, déjà, parce que sans quoi, évidemment, on peut s'accommoder de tout. Mais d'abord, il faut que je vous présente un peu à nos auditeurs, parce que je m'aperçois que j'ai cité juste votre nom à quelques reprises, j'ai pas dit qui vous étiez. Alors vous êtes prêtre catholique, je précise bien, parce que... Aujourd'hui, vous savez, bon, faut toujours bien préciser les choses. Vous dites vous-même, avec beaucoup d'humour, dans votre précédent ouvrage qui s'appelle « Trouvera-t-il encore la foi sur terre ?», sous-titré « Une crise de l'Église, histoire et question », toujours chez l'excellent François-Xavier Guibert. Vous dites vous-même en état d'apesanteur canonique. Alors, vous allez nous préciser ce que ce trait d'humour veut dire.
Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas de rattachement canonique.
Voilà, vous parliez à un diocèse,
ni une congrégation.
Avec en paroisse.
Oui, mais de même que la liturgie, enfin, que l'état de la liturgie, c'est très ambitieux ce que je dis, mais.
Sur l'état de l'apesanteur aussi.
De même, la situation canonique est en effet une manifestation aussi de ce qu'est la présente situation.
Mais enfin, vous écrivez beaucoup, parce que donc, vous avez écrit déjà plusieurs livres, donc vous parlez aussi énormément. La preuve, c'est que vous êtes invité ce soir à Radio Courtoisie. Puis, vous êtes aussi le chroniqueur religieux d'une revue très intéressante, enfin, que moi je lis toujours avec beaucoup de plaisir, parce qu'elle est très instructive, qui s'appelle Le Catholica, qui est une revue, hélas, seulement trimestrielle, ce qui est bien dommage. Qui aborde, comme son nom l'indique, comme beaucoup de sujets religieux, d'un point de vue catholique, me semble-t-il, jusqu'à présent. Je n'ai pas trop vu que c'était hérétique. Enfin, moi, je ne suis pas non plus un grand spécialiste, hein, je peux être moi-même un hérétique, que sais-je, je serai de l'autre côté. Hein, bon. Mais je vais quand même donner l'adresse, si vous voulez bien, de cette revue Catholica, si d'aventure... Nos éditeurs étaient intéressés par tout ce que vous allez dire, mais pourraient être intéressés par découvrir aussi cette revue, en plus du livre dont nous allons parler. Donc, l'administration de la revue Catholica se trouve au 38 rue des Artistes, Paris 14e, 38 rue des Artistes, Paris 14e. Il y a également un secrétariat de la station, de la revue, dont je vais vous donner le téléphone, ce qui est pratique, parce qu'il y a toujours une voix charmante qui répond au téléphone. C'est le 01... 69 34 94 72.
Monsieur l'abbé, nous avons en librairie également.
Et on retrouve également en librairie, dans les bonnes librairies, même parfois chez Charcuterie, où il n'y a pas, y a pas beaucoup d'or, mais on trouve aussi parfois des amis. Comme dirait Vincent Bocacci. Nous sommes de la même génération, tout à l'heure je disais un peu par manière de plaisanterie, mais c'est important parce que nous avons un peu vécu la même histoire de l'Église, avec évidemment. Une issue temporaire différente, puisque moi je demeure laïque et vous êtes prêtre, mais je dois dire que ce que vous dites, ce que vous faites dire sur la liturgie, il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette époque, l'époque du préconcile, l'époque du concile, de la constitution liturgique, et puis l'époque de l'application de la constitution, puis la promulgation du missel romain. tout ça a quand même été ressorti.
Et la période actuelle qui est différente.
La période actuelle qui est encore différente et on sent des petits changements, on va parler de tout ça. A été vécu quand même de façon très, très douloureuse par certains, dans l'enthousiasme, par d'autres aussi, il faut le dire. Le bonheur des uns fait toujours le malheur des autres, et réciproquement, mais de manière assez, assez chaotique. Alors, je voudrais d'abord que vous ayez la gentillesse pour nos auditeurs de nous dire ce que c'est que la liturgie. Je vous demande cette précision parce que n'importe qui peut s'adapter et se satisfaire de n'importe quoi. N'est-ce pas ? On peut se satisfaire d'un manège rustique ou d'un de ces manèges qui coûtent des millions de francs lourds. C'est parce que vous aimez aller sur les manèges de fêtes foraines, n'est-ce pas ? Mais la liturgie, ce n'est pas exactement un manège de fêtes foraines. Elle n'est pas simplement le rassemblement des croyants un jour donné de la semaine. Elle est autre chose.
Oui, c'est précisément quelque chose de très objectif. C'est le culte public de l'Église. Non, autre chose, la prière, enfin autre chose. Tout est lié, bien sûr, entre la prière privée et la prière publique. Mais la liturgie, par définition, c'est le culte que le Christ, par l'Église, rend à son Père, que l'Église rend à son époux divin, qui est le Christ. Et cela dans un certain nombre d'actes publics, bien déterminés, qui sont les actes sacramentels, au premier chef la messe, bien sûr, la liturgie de l'Eucharistie, tout ce qui l'entoure, et aussi ce qu'on appelle l'office divin, à savoir le chant des psaumes, qui est repris du chant des psaumes des Hébreux de la synagogue, qui ont toute une continuité dans laquelle s'est coulée l'Église à la suite même de Jésus, qu'on voit dire les psaumes jusqu'à la scène et sur la croix, et que l'Église reprend donc dans les heures de chaque jour, notamment les vêpres, notamment les complis, les matines de Noël, pour ceux qui assisteront aux matines de Noël. Et donc en cela, ce culte est par essence réglé. Il peut l'être plus ou moins, il peut être plus ou moins déterminé, ce qu'on appelle les rubriques liturgiques, c'est-à-dire ces lois qui se trouvent dans le missel, dans l'introduction des livres liturgiques, qui sont souvent dans les missels en rouge, en rubrique, c'est la troupe, qui peuvent déterminer de manière très précise les gestes à accomplir. Mais je veux dire par là que c'est surtout par nature que l'Église délègue des ministres pour accomplir cette prière au nom de tous. Et pas seulement le prêtre. Les fidèles, eux aussi. Et au fond, c'est peut-être une bonne chose qu'on peut retenir dans ce qui a été dit à Vatican II par la suite, qui d'ailleurs vient d'avant, bien sûr, l'insistance sur la participation des fidèles, le fait que les fidèles aussi sont des acteurs liturgiques, et donc des acteurs officiels, qui agissent au nom de l'Église.
Mm-hmm.
Ce qu'est la liturgie. Ouais. Alors, ceci étant, je parle de règlement, de religion. Il est bien évident que pour autant, la liturgie n'est pas le régiment. Et il n'y a pas qu'une seule forme liturgique. Il y a des traditions liturgiques orientales, nombreuses, très très belles. Il y avait des traditions liturgiques occidentales, latines. Il y avait plusieurs, même à une certaine époque, beaucoup
le rite milanais, etc. Et encore des rites dominicains, par exemple, qui sont un peu différents.
Oui, et on peut, et même jusqu'à la Révolution, et jusqu'aux années 1850, on peut discuter de ce qu'a été l'histoire de la liturgie en France bien avant le Concile. Mais il y a eu un abandon de ce qu'on appelait les liturgies néo-gallicanes, on peut discuter dans un sens ou dans un autre, mais qui en fait étaient des liturgies particulières latines. Une diversité par conséquent de rites liturgiques, mais qui tous se voulaient la prière de l'Église, la prière officielle de l'Église.
Qui avait droit de citer parce qu'au moment où le Saint-Pape Pie V a réformé le missel, parce que d'aucuns s'imaginent que Saint Pie V un jour s'est mis à son bureau avec une feuille de papier blanc et un bic, parce qu'il y avait déjà des bics à l'époque, comme chacun sait, n'est-ce pas, et puis il s'est dit, tiens, je vais écrire une nouvelle messe, alors par quoi je pourrais commencer un psaume, Judicamé, tiens, c'est pas mal ça, Judicamé. Alors, bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, le Saint-Pape ne s'est contenté que de codifier un certain nombre d'usages généraux, tout en reconnaissant à d'autres usages qui avait plus de 200 ans, la licéité de l'expression liturgique. Voilà. Bon, alors, tout ce qui est, puis tout plein de choses, etc. Voilà. Donc, il faut comprendre, parce que souvent on dit, bon, il y a la messe de Saint-Pie V, fabriquée dans le bureau de Saint-Pie V, n'est-ce pas, avec tenaille et marteau. Bon, ça s'est pas passé comme ça, en fait.
Et c'est une des choses publiées dans ce livre. Un annexe est un texte du cardinal Ratzinger qui,
voilà, je voulais dire un petit mot
qui précisément rappelle que Saint-Pie V n'a pas fabriqué une liturgie, à la différence de la liturgie de Prusse, voilà, qui est une liturgie beaucoup plus fabriquée, ce qui est un des problèmes.
Ce que dénonce d'ailleurs le cardinal Ratzinger. Alors, j'ai entendu le cardinal Ratzinger, c'est pas l'abbé Claude Barthes, c'est encore moins Daniel Ami, c'est encore moins des bavardeurs de comptoir qui paraient de la Sainte-Messe, par exemple, entre deux pastis. C'est quand même le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. C'est un petit peu long, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, enfin, c'est Santo Officio, le Saint-Office, n'est-ce pas, de sainte mémoire. C'est quand même, bon, c'est quelqu'un qui est chargé par le pape, par le Saint-Père, de veiller à la rectitude doctrinale de discours de l'Église, etc. C'est bien ça, je ne me trompe
pas. Bon. D'où le fait, l'importance qui montre que la situation est tout de même en train d'évoluer. Et en même temps qu'elle est toujours très paradoxale, c'est que le cardinal Saint dit aujourd'hui, écrit, puisque cela fait partie de ses mémoires, qui vont être publiées chez Fayard
l'année prochaine, en 88,
oui. Donc ce sont les pages liturgiques. On a sorti quelques extraits. Là, j'ai publié toutes les pages liturgiques. Ce qui est nouveau, c'est que le cardinal Ratzinger attaque la réforme liturgique de Paul VI comme telle, tout en la coupant du concile en disant ça ne remet pas en cause, etc. De quoi on peut discuter, bien sûr.
Non, il y a très bonne chose dans ce concile.
Oui, mais on peut discuter aussi.
Voilà, j'ai dit, il y a très bonne chose dans ce concile.
Je vous donne acte. mais donc le gardien va plus loin qu'il n'était allé jusqu'à présent. Maintenant, le paradoxal, c'est que, comme vous dites, c'est un personnage très important, très influent, c'est le deuxième personnage à Rome, on peut dire. Il dit ça, mais c'est lui le maître. Et il ne se passe pour l'instant rien.
Alors justement, je dirais la dernière phrase de la dernière intervention, donc c'est un extrait du futur ouvrage autobiographique du cardinal Ratzinger qui va paraître en 98 chez Fayard, donc ça s'appelle La Mia Vita, ça a été déjà publié en italien mais pas paru encore en français, La Mia Vita. La dernière phrase que vous donnez, donc qui est en quelque sorte une quasi-conclusion de votre livre, si j'extrais... si j'accepte l'annexe numéro 2, c'est ce que dit le cardinal Ratzinger. Il dit, c'est pourquoi nous avons besoin d'un nouveau mouvement liturgique qui redonne vie au vrai héritage du Concile Vatican II. Alors là, je dois dire que c'est une phrase extrêmement courte, mais qui mériterait quand même un long développement, un très long développement.
Moi, c'est de la phrase du cardinal Ratzinger, donc je prendrai à mon compte la première partie, c'est avec tout le respect, bien sûr, pour le cardinal Ratzinger, à savoir, nous avons besoin d'un mouvement liturgique, nous avons besoin d'une réforme liturgique. La réforme liturgique est à faire. Et ce qui a été fait n'est pas une réforme liturgique.
Mais il le dit dans d'autres textes, je crois qu'il le dit dans celui-là, mais il le dit également dans d'autres textes qui ont paru, ou peut-être parfois sous la forme d'une ou deux homélies qu'il a pu prononcer dans des séminaires de formation traditionnelle, donc demeurer attaché au rite de Saint-Pie V, qui dit que la liturgie, c'est quelque chose de vivant, en fin de compte, que le travail liturgique, que les modifications, les ajouts, les améliorations se font au long de siècles, de siècles, de siècles. C'est ça la véritable tradition, en fin de compte. Il y a une tradition liturgique. Tandis que là, on a l'impression que cette messe a été en quelque sorte fabriquée par des experts.
Très savants, souvent.
Très savants, savantissimes, même, parce que des fois, bon, c'est vrai que c'est pas des imbéciles qui l'ont fait. Ils en savent beaucoup plus que tout le monde, sur des tas de choses, sur les anaphores, les anamnèses, les machins, les trucs.
Marc Imor, le responsable, je peux vous dire qu'il est un puits de science, il connaissait des quantités de choses, mais le tort, précisément, un des torts de ces personnages, parce que c'est quand même lié à un phénomène plus vaste, qui est celui du Vatican II et de son interprétation, mais le tort de ces personnages a été de vouloir refabriquer quelque chose, passer, comme dit le cardinal Ratzinger, peut-être, ou d'autres, qui est une banalité, par-dessus des siècles et des siècles de tradition liturgique pour retrouver la messe du IVe siècle à Rome, en dehors, on ne sait pas exactement
comment elle était vécue. Elle était
ça, il y avait pas, au 4e siècle en Rome, je vous assure, monsieur, il n'y avait pas de guitare. Il n'y avait pas de guitare. Donc déjà, vous voyez, au plan archéologique, on n'est pas quand même, on n'est pas vraiment dans le bon sens. Là.
Et il y avait sûrement une somptuosité, on peut imaginer à l'époque constantinienne ce que ça pouvait valoir dans la liturgie même. Bon, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a voulu faire.
Mais comment
il y a autre
comment...
chose qu'on a voulu faire, oui. Qui a été fait par ailleurs. Hein,
bon.
Ils ont bien distingué.
Alors, on a toujours tendance à accuser, les Allemands nous ont envahis en 40, ils avaient déjà eu une répétition générale en 14, ils étaient venus pour le Paris, puis en 70 aussi. Bon, enfin, on se dit, ah, les Allemands sont méchants, ils nous ont envahis. Enfin, déjà, il suffit de passer à s'envahir, il faut se défendre.
Bien sûr.
Hein? Bon, donc trois fois, on a été battus. Et là, comment se fait-il que... du jour au lendemain, j'exagère un peu, du jour au lendemain, mais d'une façon assez, d'abord peut-être assez lente et ensuite extrêmement brutale, comment est-ce qu'on est passé d'un rite à un autre? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Très brutal, le cardinal Lustiger a parlé de, pour ce qui est de l'imposition, quand il faisait une espèce de mea culpa, dans son souvenir, d'une réforme qui a été imposée à la manière de la révolution culturelle de Mao. Et c'est en effet l'effet que ça a donné. Et c'est ainsi que ça a été voulu. J'entends qu'on a voulu le distribuer. C'est le problème est plus global, vous disais-je, c'est celui du concile. Hein. Le concile pris comme un bloc. Hein, disons, ne discutons pas de l'interprétation, encore que ce soit précisément un problème d'interprétation. Mais si vous voulez, on peut en parler de ça aussi, mais par ailleurs. Donc, le concile, dans sa préparation, lointaine, toutes les années 50, dans la préparation immédiate, l'arrivée de Jean XXIII au souverain pontificat, la manière dont les jeux se sont préparés, le coup d'État, le coup d'Église a été préparé, on le sait maintenant. Les histoires du concile paraissent... La manière dont le concile lui-même a été vécu, comment les textes ont été élaborés, comment ils ont été promulgués, et comment ensuite ils ont été appliqués, tout cela constitue une espèce, un retournement, on a parlé de révolution copernicienne, pardon, un retournement dans l'Église, une révolution, disons, et tout ébranlé, qui voulait tout ébranler. En fait, est-ce que tout a été ébranlé? Comme vous le disiez, il y a de bonnes choses dans le concile, je suis tout prêt à le dire. Mais il y a surtout des vides très importants. C'est un problème d'interprétation. C'est un concile qu'on est obligé d'interpréter, de bien interpréter, de mal interpréter.
On dit qu'il faut l'interpréter à la lumière de la tradition.
Ce qui est absurde, parce que qu'est-ce que la tradition? C'est le dernier concile, c'est le concile qui interprète la tradition. Le problème du Vatican II, c'est qu'il faille interpréter, justement, alors qu'il n'interprète pas. Et qu'il laisse, par conséquent, des flous très importants et d'une extrême gravité au sujet de l'œcuménisme, des relations de la religion, de la liberté religieuse et tel autre point considérable. On savait qu'il changeait. Il changeait l'Église. Il fallait que l'Église change. Au fond, c'était le message principal.
Il faut que ça change.
Il faut que ça change. Et il faut qu'on soit capable de changer, de montrer qu'on est capable de changer, de s'adapter au monde. Non, on s'adapte. On a le dogme. Non, on ne touche pas au dogme. Il reste ce qu'il est. Ça n'est pas du dogme. C'est du pastoral. Mais c'est de la doctrine. Oui, c'est de la doctrine, mais dite d'une autre manière. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On ne sait pas. Mais on change. En fait, effectivement, on change parce qu'on ne peut pas, c'est blanc ou noir, hein, sur le respect des religions, c'est une chose ou c'est l'autre. Il y a une voie ou il y en a plusieurs. Et donc, ce phénomène-là, de changement qui n'est pas sans être, de retournement considérable, il est passé comme il est normal dans l'Église, vis-à-vis des fidèles, par le biais de la liturgie. La loi de la prière...
L'ex credendi, l'ex orandi, l'ex credendi.
La loi de la prière est une traduction, non pas comme A plus B à la plus B, mais une traduction tout de même de la loi de la foi, du dogme.
Bon, donc, c'est clair que c'est les attitudes physiques trahissent ou traduisent aussi ce que nous croyons vraiment au plus fort de notre être. L'attitude désinvolte vis-à-vis de l'Eucharistie montre qu'on n'a pas conscience vraiment, donc on n'a pas la foi vraiment en la présence réelle, corps, âme, esprit, notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Sans quoi, mais c'est même pas à genoux qu'on devrait être, on devrait être à plat ventre et la tête sur le... et la tête sur le sol, n'est-ce pas, tellement écrasée par cette majesté. Donc cette espèce de désinvolture aussi veut dire qu'il y a aussi peut-être aussi, comment dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui a à voir avec la foi elle-même? C'est-à-dire, est-ce que ce bouleversement liturgique et cette, en fin de compte, cette acceptation plus ou moins tacite de n'a pas quelque chose à voir aussi avec la foi? Est-ce que la foi ne s'est pas aussi un peu faillie? Et est-ce qu'il n'est pas un peu à la fois injurieux et injuste de dire que c'est le concile qui a faibli la foi? Est-ce qu'il n'y avait déjà pas de problème avant?
Bien sûr, beaucoup de problèmes avant, et il y avait même des problèmes liturgiques, assurément. Hein, ce qu'on appelle le mouvement liturgique,
qui est né bien avant les années
60. Bien avant, avec de très bons aspects. Il y avait aussi beaucoup d'abus, puisque nous sommes encore en 97, donc nous fêtons le cinquantenaire de Mediator Dei, l'encyclique de Pie XII sur la liturgie. Une bonne partie de l'encyclique de Pie XII, en 47, était faite... pour endiguer les dérives, des dérives dans le mouvement liturgique, ça, incontestablement. Non, mais par ce long détour, revenir à votre question, comment les choses ont été si totales, si globales, si rapides, parce que on voulait traduire, pour les fidèles qui viennent à la messe le dimanche et qui connaissent l'Église par la messe dominicale, on voulait traduire ce profond bouleversement qui s'était opéré, qu'on voulait opérer dans l'Église. Et pourquoi c'était si vite? Alors, suite à votre instance, à savoir, en effet, ça a été reçu aussi facilement, parce que, bon, au fond, tout ça avait moins d'importance qu'autrefois. On n'était plus prêt à se battre, ni pour la foi, ni pour tout ce qui tourne autour de la foi.
C'est une espèce de respect de l'autorité mal compris.
Oui, l'indifférence aussi. Oui. Et puis, ce sentiment était partagé.
C'est quand même bon, ça. Il faut quand même dire des choses comme elles sont. Quoi. Enfin, je veux dire, avant la réforme liturgique, moi je me souviens, parce que donc, nous avons vécu le passage, nous avons vécu l'avant, le pendant, l'après, le post-après, et puis bon. Eh bien, quand même, le Saint-Pie-V, quand même, ça ronronnait, quand même.
Oui, bien sûr.
Ça ronronnait. Moi, je crois que c'est dû, en fait, le problème liturgique, je parle de la France, que le reste, je connais pas. Bon, j'ai lu quelques textes, mais je connais pas. Mais ça vient aussi d'un manque d'éducation des fidèles.
Certainement, oui.
Et je dirais qu'au moins, et vous voyez, comme je suis vraiment généreux et bon, œcuménique et dialoguant, c'est qu'au moins la constitution sur la liturgie du Sacro-Saint Concile Vatican II, les décrets d'application qu'on suivit, la promulgation du missel romain, ça a eu au moins l'avantage, en raison de la résistance que certains y ont opposée, et qui s'est concrétisé jusqu'à nos jours par le maintien du rite, la bataille pour le rite de Saint-Pie-V, et les victoires quand même, faibles mais significatives, puisqu'elles ont été bénies jusqu'au plus haut sommet de notre Sainte Mère l'Église.
Mais le cardinal Ratzinger ne dirait pas ce qu'il dit.
Absolument, s'il n'y avait pas eu ça. Bon, eh bien, cette réforme liturgique a eu pour effet de faire réfléchir beaucoup de catholiques français, en fin de compte, à ce qu'était la liturgie et la messe. Je pense, je ne sais pas, je peux me tromper, parce que je ne suis pas exégète de ces questions, comme vous le savez, mais il n'y a jamais eu tant de livres, ou brochures, ou articles qui ont paru sur la messe que depuis la Constitution sur la liturgie. Alors ça, c'est un signe. C'est un signe que les gens ont été tellement surpris par la façon dont le nouveau rite a été imposé. Je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de rites qui sont coulés dans le bronze. Ça n'existe pas. Tout évolue. Bon, la messe de Saint-Pie-V, les papes successifs, ils ne se sont pas gênés pour y faire des rajouts, des retraits, des machins et des trucs. Bon. Et aujourd'hui, on est dans une situation, d'ailleurs je vais demander votre sentiment là-dessus, qui est un petit peu ambiguë et quand même un peu bloquée. Puisque, bon, grâce à la bienveillance du Saint-Père, le pape Jean-Paul II, à deux reprises successives, il y a eu le premier indulte, et puis ensuite il y a eu le motu proprio, au moment, malheureusement, de cette terrible affaire avec Mgr Lefebvre. Ce motu proprio est bien, il est d'une grande générosité, on voit que le pape est vraiment celui qui confirme tous ses frères, non seulement dans la foi, mais aussi dans l'unité, mais d'un autre côté, il fixe, une fois pour toutes, la messe de Saint-Pie-V, dont moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on la défende jusqu'à temps que quelque chose de plus beau arrive, mais c'est pas pour demain la veille, vous ne pensez pas, moi je ne pensais pas prendre de la veille, tout est fixé. C'est-à-dire que c'est le missel de 62, je ne me trompe pas, c'est ça, 62, tout est vraiment bloqué, on ne peut plus rien. Alors maintenant, bon, on a deux. Allez-y.
Que l'adulte en question ne fige rien du tout. Ce qu'on peut lui reprocher, enfin, qui est vraiment typique, qui nous en plaint dans ce qu'est la situation présente, c'est que c'est une tolérance, une simple tolérance. En fait, le rite officiel de l'Église reste le rite de Paul VI.
Chez les latins.
Chez les latins, nous sommes d'accord.
Qui parle plutôt latin, d'ailleurs. On appelle ça latin.
Mais pour ce qui est de figer les choses, certainement, oui. La crise présente, a fixé sans doute une évolution qui aurait continué longtemps. Comme dit Robert Spemann, qui était ami précisément du cardinal Ratzinger, lorsque je l'interroge sur cette évolution, oui, la liturgie doit évoluer, mais de telle manière qu'on ne la sente pas évoluer.
Voilà. On a l'impression, au bout de 40 ans, qu'on a toujours assisté au même rite.
Mais ce n'est pas vrai, bien sûr. Mmh. On sait bien, nous avons la liturgie de Saint-Pie V que nous connaissons, ne ressemble pas à quoi qu'on en ait, à la liturgie telle qu'elle était célébrée dans les paroisses. Le contexte est tout différent. Nous serions très surpris si nous étions projetés, même dans notre enfance, souvenirs que nous avons, montrent que c'était autre chose. Mais c'était pareil tout de même. Et de même, nos parents célébraient une liturgie qui était sensiblement la même que celle de leurs prédécesseurs, sans l'être tout à fait. Il y avait en effet une évolution vivante, et certainement beaucoup plus importante dans le rite latin que dans les rites orientaux, qui sont certes splendides, magnifiques, et le rite latin était resté aussi un trésor magnifique. Mais c'est un problème complexe que celui de cette évolution des rites. Et le cardinal Danels, donc, qui a répondu à mes questions finalement par des textes qu'il avait déjà écrits.
On va donner un petit peu le nom quand même de toutes les personnes qui ont contribué à votre livre, en répondant à vos questions ou en vous envoyant des textes motu proprio, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, il y a le père Armogat, je crois, qui est prêtre, fait pas partie vraiment des traditionnalistes et chevelés de l'Église dominée des tempêtes. Le cardinal Danels, qui a été primat de Belgique,
je crois, qui est primat de Belgique.
Bon, qui passe pas non plus pour
un anti-Vatican II. Il soit clair que je suis pour
forcené. Bon, Jacques Dupelletier, Pierre Gardec, on a eu le bonheur d'entendre à cette radio il y a quelques jours, René Girard, qui est un philosophe bien connu qui vit aux États-Unis.
On apprend des choses sur lui d'ailleurs, sur René Girard.
Oui, tout à fait, c'est passionnant, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Louis Hage, Monseigneur Lagrange, qui sans être non plus un traditionnaliste échevelé, est un homme quand même, je dirais, plus ouvert à la sensibilité traditionnaliste, et bon, je veux dire qu'il estime qu'ils ne sentent pas mauvais des pieds, qu'on peut quand même les fréquenter de temps en temps.
Lui, il verrait de Michel.
Il verrait bien une espèce de choses un peu. Le père Lelon, que nos auditeurs connaissent aussi, Dominique Millet, qui est une dame, ce prénom qui peut être...
qui est professeur à la Sorbonne et qui, elle, tient pour le nom de
Saint-Pie X, Fraternité Saint-Pie X, Fraternité Saint-Nicolas. Marcel Pérez, qui est un grand musicologue, que connaissent ceux qui s'intéressent à la musique, notamment de la Renaissance, parce qu'il a fait beaucoup de choses intéressantes sur la Renaissance, sur le baroque aussi. Bon, il fait des
musicologues,
et puis sur le Moyen-Âge. Qui n'est pas un partisan effréné de Saint-Pie X et de la réforme liturgique.
Non, pas du tout, quand même, il est très.
Luc Péen. Et puis ensuite, il y a aussi des gens intéressants comme Ashraf Sadek, ça c'est intéressant.
Mais c'est un copte, non plus.
Un hélicoptère, c'est intéressant. Alors Robert Spemann, lui, est plutôt proche de ce qu'on appelle la fraternité Saint-Pierre, c'est-à-dire les traditionnalistes reconnus, estampillés par le Saint-Siège, et puis Robert Taft,
qui est un jésuite américain qui enseigne à Rome, et qui est l'historien du rite byzantin.
Voilà, qui est un byzantiniste, qui s'élève dans le rite byzantin, d'ailleurs.
Qui s'élève dans le rite byzantin, et qu'on peut plus progressiste, je crois,
ça ne l'extrait pas du tout. Progressiste, mais par contre, encore une fois, le progressisme au sens... politique, doctrinale est une chose. Par contre, la liturgie, on voit que là, tous ces gens, différemment, s'interrogent quand même. Comment ne pas s'interroger? Vous êtes endormi le soir en lisant les textes du Sacro-Saint Concile Vatican II, vous en dormez tranquillement après vos prières du soir et vos lectures pieuses, et puis vous rêvez dans la nuit que ça va être le printemps de l'Église, que tous les arbres vont porter du fruit en abondance, magnifique. Vous voyez le matin, vous ouvrez vos fenêtres, vous avez un champ de ruines. Alors vous dites, alors quoi? est-ce que c'est maintenant le cauchemar ou est-ce que c'est avant? C'est vrai que ça pose quand même beaucoup de problèmes.
Et sur les plans liturgiques et sacerdotales, c'est évident. La liturgie touche de très près au sacerdoce, dont le printemps de l'Église, il aurait dû être dans les vocations. Or, nous sommes dans une situation plus qu'effrayante. Les ordinations sacerdotales, en France seulement, qui s'effondrent de 80% entre la fin du concile et aujourd'hui. Les rentrées dans les instituts religieux, hommes-femmes, tout confondu, même chose, 80%, un clergé, vieux...
Sans compter ceux qui ont défroqué par des âges humiliés, des parades à certains points de vue.
Un clergé qui a 65 ans ou plus de moyenne d'âge dans les diocèses, sans ordination à peu près maintenant par an, ce qu'on trouve bien par rapport à ce qui a été...
Il en faudrait 1000.
Oui.
Il en faudrait 1000, oui.
Donc,
enfin, c'est mieux que rien, évidemment.
Bien sûr.
C'est mieux, il y a un léger mieux. Si on passe de 99 à 100, évidemment, c'est mieux, quoi.
C'est même pas l'hiver, c'est au-delà.
Voilà, c'est la glaciation.
Alors,
par contre, il y a quand même des choses intéressantes que disent un certain nombre de vos auteurs, justement, sur ces jeunes. Ces jeunes vocations, quand même, parce qu'il y a encore des vocations. Peut-être que l'espèce humaine est devenue un peu plus sourde qu'avant, elle entend moins facilement l'appel, mais enfin, il y en a qui entendent quand même. Et alors, d'abord, statistiquement, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, statistiquement, enfin, c'est le cas des 2-3 dernières années, en France, enfin, pour les Français, disons, sur 3 ordinations, sacerdotales, sacerdotales, il y en a 2 qui ne sortent pas des séminaires diocésains.
C'est ça, oui, je crois. Oui.
C'est quand même c'est intéressant. Quand on y réfléchit bien, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que 2 jeunes prêtres sur 3 Français aujourd'hui ne sortent pas des séminaires diocésains. Bon, déjà, on peut s'interroger. Et sur ceux qui sortent, et j'en connais un certain nombre, parce que j'en ai vu un certain nombre de jeunes prêtres, ils ont, vis-à-vis de la liturgie, pour ceux que j'ai rencontrés, au hasard, évidemment, compte tenu de ma préférence liturgique, on a un petit peu tendance à voir toujours les gens de la même famille, quoi. Bon, c'est normal, mais là, d'autres occasions, comme le JMJ ou des voyages, etc., me font rencontrer des jeunes prêtres, alors vraiment des jeunes prêtres, on pourrait être leur grand-père, quasiment, qui ont vis-à-vis de, par exemple, la liturgie Saint-Pie V, une acceptation assez raisonnable, qui ont vis-à-vis de la liturgie paulinienne, enfin de Paul VI, une exigence de vraie liturgie.
Voire des critiques.
Des critiques. Qui sont, allez, j'emploie un mot qu'utilisent les jeunes aujourd'hui, ils sont beaucoup plus cool sur ces questions que, je m'excuse, c'est la radio de la francophonie, mais enfin tout le monde comprend ce que ça veut dire, que ne l'étaient leurs aînés. Où on sent encore... chez les gens de 50, 60 ans et au-delà, une espèce de crispation, absolument.
Mais ils sont d'une autre génération, ils n'ont pas fait la révolution, ils viennent après, et ils ressentent ce qui a précédé comme une révolution. Bon, à cet égard, les choses ne peuvent pas ne pas changer, biologiquement, si on peut dire. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'impondérables. D'abord parce que, précisément, le phénomène... qui a fait le changement, le changement est un phénomène, je crois, idéologique. Aucun des intervenants ne m'a contredit sur ce point. Après, ils discutaient pour savoir si c'était le texte du concile ou pas, mais le fait même d'une idéologie,
tous sont d'accord. Et comment on pourrait la qualifier, cette idéologie? C'est vraiment le modernisme, en fin de compte.
Oui.
C'est un grand mot pour en fait, vouloir s'adapter au monde.
Le modernisme est en lui-même une adaptation de quelque chose, enfin, une traduction de ce désir de s'adapter avec en faisant des concessions qu'on voit dans l'Église depuis la Révolution. Donc le modernisme était une adaptation savante. Il s'agirait plutôt d'une adaptation, moi je dirais, du point de vue magistériel. C'est 68, plus de paternité. On n'enseigne plus, on n'ose plus trancher, on n'ose plus condamner, on n'ose plus... bref.
Au mois d'août cette année, enfin moi j'en suis encore tout à fait bouleversé, à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse, c'est quand même des centaines de milliers de jeunes qui viennent à la rencontre du pape, et au travers du pape évidemment de quelqu'un, dont le pape est le vicaire, évidemment ça tombe sous le sens, mais si vraiment chez ces nouvelles générations l'autorité ne voulait rien dire,
ils iraient faire des rêves parties, je veux dire.
Bien sûr, tout ça. Encourageant, malgré tout, il y a bien sûr non seulement ces jeunes prêtres, mais bon, les jeunes prêtres qui sortent bien quelque part. Par conséquent, ces jeunes générations de catholiques, elles qui engendrent des vocations religieuses, sacerdotales. Bon, ceci étant, tout n'est pas rose. Quand même, avant de venir ici, j'étais avec un jeune prêtre du diocèse de Paris qui me parlait des JMJ en me disant « il faut pas croire, il faut aller voir de près ce que croit, quelle est la foi, j'entends, de ces jeunes qui étaient rassemblés. »
Mais il en va de même, ce jeune prêtre a tout à fait raison, mais il en va de même pour les foules qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment de sa prédication, au moment du sermon sur la montagne, au moment de tous ces grands rassemblements et des rameaux, des foules arrivaient, mues par une motion spéciale, sans doute de l'Esprit-Saint, mais ne comprenant pas toujours, qu'on en a vu beaucoup, le Christ leur a dit des choses, bon, ils sont repartis penauds, bon, c'est pas le Messie auquel on avait pensé, et bon, et ça c'est vrai,
oui,
c'est
une chose alors, vraie. D'accord, mais il est incontestable qu'il leur était donné ce qu'ils venaient chercher, même s'ils le refusaient ensuite. Il n'est pas dire, pour certains, une conversion.
Il y en a eu,
hein, certainement. Ben,
il y en a eu beaucoup, quand même.
Aussi bien, c'est quelque chose de très encourageant pour l'avenir. Et pour en venir donc aux vocations qui sortent de ces générations, elles sont très conscientes de beaucoup de déficiences, sont prêtes à faire, à revoir beaucoup de choses, certainement. Mais cela suffira-t-il pour aller contre un phénomène idéologique de cette importance? Il faut une volonté, ce n'est pas vous que je le dirai, une volonté politique. On ne va pas contre une révolution si c'en est une.
C'est vrai, mais il faut que la volonté politique soit au sommet, évidemment. C'est le sommet qui impulse généralement. Voilà, c'est ça. Encore faut-il que les relais qui sont censés faire passer la volonté politique, parce que on est comme dans la crise de l'ancien régime, en fin de compte. Il y a quand même des parallèles qui sont assez frappants. On a dit que le concile, c'était les états généraux dans l'église, enfin, etc., etc. Bon, c'est peut-être impossible, mais c'est vrai et pas vrai, mais il y a aussi de la vérité. Bon, c'est vrai que si le roi avait été, enfin je parle du pauvre Louis XVI, dont nous allons bientôt commémorer le martyr, s'il avait été peut-être un peu plus volontaire et volontariste, il aurait évité bien des problèmes à lui-même d'ailleurs, à sa famille, et puis aussi... sa famille plus large, qui était les Français de l'époque. Il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut que ça puisse passer aussi, il faut que les différents échelons par où l'autorité se transmet soient plutôt des accélérateurs ou des amplificateurs du message initial plutôt que des freineurs, voire des obstacles. Des obstacles. Bon, si les apôtres n'avaient pas transmis la parole donnée par le Seigneur, où est-ce qu'on serait aujourd'hui?
Bien sûr.
Où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Donc il faut que ceux qui doivent transmettre, le transmettent en l'amplifiant. Bon, à temps et à contre-temps, en criant sur les toits, etc. Est-ce que notre Seigneur n'a jamais fait, jamais crié sur les toits? Bon, par contre, les apôtres l'ont fait. Bon. Le problème est peut-être là aussi.
Oui, c'est ça. Il faut que cette volonté soit partagée largement. Or, précisément, je parle d'expérience, je parle à ces jeunes prêtres, à certains d'entre eux en tout cas, très conscients des choses. Ils ne se sentent pas encore capables de... par exemple, de retourner à l'hôtel. Deux d'entre eux, avec lesquels j'ai parlé de ces questions liturgiques, dès après avoir sorti le livre, reconnaissaient, l'un d'eux me disait de lui-même, le problème le plus visible, le plus sensible, c'est celui de l'hôtel qui a été retourné. Et il ajoutait immédiatement, et l'autre me disait de même, je ne me sens pas capable de le remettre dans l'autre sens.
Parce qu'il n'ose pas, il a du
parce
respect
qu'il n'ose
humain.
Pas, parce que l'évêque, parce que le conseil paroissial, parce que les habitudes.
Parce que etc. Le pape célèbre aussi face au peuple.
Oui.
Enfin, c'est pas la même chose. Quand le pape célèbre face au peuple. Enfin, moi, j'ai pas le même sentiment. Je veux dire, quand il célèbre la Sainte Messe, même devant un million de personnes, comme il l'a fait à Longchamp, il célèbre vraiment le mystère. C'est-à-dire que la foule est presque absente. C'est plus un cœur à cœur avec Dieu, en fin de compte, qu'une espèce de représentation théâtrale qu'on ferait de la messe. C'est un petit peu ça, c'est la théâtralité
c'est le signe objectif et la théâtralité, oui bien sûr. Ça, c'est ce que disent les intervenants qui parlent
beaucoup,
de ce
problème-là. Tous, pour ainsi dire.
Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait changer d'abord...
L'hôtel.
Certes, il y a d'autres signes qui ont le vernaculaire, par exemple, le fait de... qui ont frappé les assistants. Bon, je ne dis pas contre le français, et contre les lectures, et les explications, et etc.
Non, mais pas avec un bon ficelle, à la limite.
On peut y arriver.
On s'en sort très bien.
Il y a des lieux où on peut faire plus, d'autres on peut faire moins. Mais d'un coup, ou presque, tout a été en français, donc la langue sacrée a disparu.
Je me disais, parce que Spemann disait que, bon, puis d'autres le disent aussi, d'ailleurs, Girard et d'autres, que, bon, ayant, pour des motifs professionnels ou autres, étaient obligés de se rendre à l'étranger, mais voulant, évidemment, quoi qu'à l'étranger, satisfaire aux obligations dominicales de tous les catholiques, tous les chrétiens, et ils sont allés dans les messes où ils n'ont pas pu suivre. Ils n'ont pas pu suivre, mais moi, ça m'est arrivé il y a 3 ans en Bretagne. Je suis allé vraiment à point presqu'île de Crozon, là-bas, là, vraiment au milieu de la fourche du Trident, là, au bout de la fourche du Trident, c'est très beau. Et puis je suis allé à une messe, bon, bah, c'était en moitié en breton. Bah, moi, je suis désolé, j'aime beaucoup les Bretons, je salue tous ceux qui sont à l'écoute, et je leur souhaite par avance un très joyeux Noël également, c'est pas vraiment des Bretons, enfin, j'étais quand même un peu perdu.
Oui, c'est ça. Oui, il y avait un signe d'unité. Bon, et par ailleurs, cela véhiculait toute une tradition, un sentiment qui est très important. Le cardinal Lucie, je l'ai dit, il n'aurait pas dit que ce serait vrai quand même, qu'on priait comme nos pères ont prié, nos grands-pères, ainsi de suite.
C'est surtout bon, alors, il y a l'aspect des paroles qu'on dit, par exemple en latin, on a toujours dit le credo de la même façon, enfin en tout cas le credo qu'on chante, parce qu'il y en a plusieurs des credos, n'est-ce pas, il faut faire attention. Bien pas que latin d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un petit peu de grec, pour beaucoup, enfin un petit peu, quand le crier c'est encore grec, et puis on doit avoir 2-3 mots quand même de d'hébreu, hein, Alléluia, Amen, etc. Bon, c'est quand même pas, enfin, c'est pas vraiment, c'est pas Sophocle qui a écrit ça. Bien. Pourquoi le latin? Parce que c'est une langue qui ne bouge plus, elle est fixée. Évidemment, la grande chance du latin, c'est une langue morte. Le français, si vous écrivez des traductions en français du Notre Père, si vous l'écrivez sous la Renaissance, si vous l'écrivez au grand siècle, si vous l'écrivez au siècle dit des Lumières, si c'est Balzac qui en fait une adaptation, ou si c'est Michaud qui en fait une adaptation, ben les mots ne vont pas avoir le même sens. Vous êtes obligé de changer de mot tout le temps. Parce que les langues parlées, les langues dites vernaculaires, elles changent tout le temps, elles évoluent tout le temps. Et des mots qui autrefois étaient grossiers deviennent des mots tout à fait ordinaires, des mots qui avaient un sens non plus, ou alors c'est le mot opportunité, par exemple. Hein. Bon, bah, évidemment que une chose, ça a un sens en anglais, une autre chose en français. L'opportunité, c'est pas, on dirait plutôt une occasion pour dire le mot. Alors, on voit que c'est très dangereux, au moins que toute la messe soit en vernaculaire.
Voilà.
Que les lectures soient faites pour être comprises par tous, que certaines prières, même soient enfin, moi, j'ai absolument aucune objection.
Que le sermon soit en français.
Voilà. Le cœur de la liturgie sacrificielle, elle demeure dans une langue qui ne soit pas corruptible.
Oui.
Qu'on garde toujours les mêmes mots.
Et ce à quoi les orientaux sont très sensibles, et à quoi nous devrions nous aussi être très sensibles, c'est que ça véhicule tout un trésor qui est esthétique et spirituel en même temps, qui est celui de la tradition, des hymnes, chants, psaumes, tout ce qui au reste ont pu évoluer, qui sont aménagés, mais qui n'existent que dans la tradition latine. Et tout cela a été perdu d'un coup. Quand même, on ne ferait qu'un reproche à la réforme liturgique, c'est ce gâchis inouï, culturel, cultuel, dont un jour ou l'autre, il faudra les responsables.
C'est ce qu'on appelle du vandalisme.
Oui.
C'est le terme originel qui a été utilisé sous la Révolution française, ou peut-être un tout petit peu après la Révolution française, pour justement dénoncer les agissements des bonnets rouges contre tout ce qui était les splendeurs du passé, mais à partir du moment où ils estimaient que c'était, n'est-ce pas, une manifestation de la féodalité, comme disait, ou du despotisme, ce qui fait bien rire quand on sait ce que c'est que les sociétés d'anciens régimes, tout au 18e, féodalisme et despotisme, ça fait quand même rigoler. S'il y avait vraiment despotisme, ils n'auraient pas fait tout leur saccage, parce qu'on leur aurait fusillé avant. Bien, c'est du vandalisme, en fin de compte.
Oui. Ce qui ramène à l'aspect révolutionnaire du phénomène, et aussi au fait que, même que sous le directoire, par exemple, on ne pouvait pas parler de. On ne pouvait pas revenir, ou sous l'Empire, même si on n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé, il n'est pas question de revenir à l'Ancien Régime.
toute chose égale par ailleurs. Il ne s'agit pas ici d'ancien régime, de nouveau régime.
Je dirais ce que je pense aussi.
De même aujourd'hui, il est très difficile.
Je prends le omnes restaurare in Christo au sens étymologique. Ce n'est pas la restauration, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de rouler de nouveau en carrosse et de porter des jabots.
C'est très important
et
de le dire.
Dans la liturgie, il ne s'agit pas non plus de revenir à des formes qui seraient absolument fixées. Voilà, donc je vous rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, qu'ils entendent cette émission en direct le mercredi 24 décembre, qu'ils l'entendront s'ils le souhaitent en rediffusion le jeudi 25 décembre, c'est un jour de Noël, mais que pour les raisons de fête et de disponibilité de notre intervenant d'aujourd'hui, notre invité d'aujourd'hui, nous avons anticipé cette émission et nous l'avons enregistrée le lundi 22 décembre, et j'ai la joie donc d'avoir dans le studio l'abbé Claude Barthes qui est venu nous entretenir d'un très très beau livre, très utile, qui s'appelle « Reconstruire la liturgie ». Alors, vous évoquiez tout à l'heure la réflexion du cardinal Danels, qui est primat de Belgique, c'est ça, qui était des acteurs du concile, on peut dire.
Oui.
Il était quand même...
Oui, il doit être jeune évêque lors du concile.
De Malines, peut-être ou...
Non. Enfin, il est maintenant
archevêque de Malines.
Je ne me souviens plus, il faudrait voir sa biographie. Il a été d'ailleurs un des évêques envoyés par Rome à Écône en 1974, je crois. Bon, il a connu beaucoup de choses. Et du coup, il est liturgiste de profession, puisqu'il a enseigné la théologie sacramentaire au séminaire de Bruges. Donc la question de la liturgie l'intéresse beaucoup, et l'état de la liturgie présent, et comment améliorer les choses, sans pour autant mettre en cause, donc en ce sens-là, il n'est pas d'accord avec moi, les principes conciliaires, donc le lien entre le concile et la nouvelle liturgie. Mais donc, il était prêt à réfléchir, il disait, oui, c'est très intéressant, ça, il faudrait parler sur le lien entre liturgie et tradition, liturgie et modernité. Sur le fait que la liturgie, bien sûr, par essence, par définition, est tradition, parce qu'elle est, comme la religion est tradition, au sens le plus fort du terme, et la liturgie, donc sensiblement, elle ne peut pas se passer de ce sentiment de tradition, de continuité, de répétition, etc., même si ça n'est pas véritablement une répétition à l'identique. Il n'empêche que, autrefois, mettons au XVIIe siècle, XVIIIe, peut-être même XIXe, la liturgie restait, tout en étant distincte du profane, très proche du profane, à la fois parce que la société était très religieuse, qu'il y avait de la liturgie partout, dans tous les actes de la vie sociale, publique, et on se retrouvait à l'église, pas de fond. Et même la culture était une culture traditionnelle, soit rurale, soit... oui, mais aussi, j'entends...
Traditionnelle,
oui, c'est vrai, ils n'ont pas une autre technique. Bon, les choses ont beaucoup changé à tous égards. La séparation moderne entre le religieux et le profane devient une séparation étanche. Et cela est très sensible dans la liturgie. Et le mode de vie est différent. Un paroissien du XVIIe siècle rentrait dans son église, certes trouvait des costumes, des manières de faire différentes de celles du monde, mais pas très lointaines tout de même. Alors que depuis déjà longtemps, le passage du profane au liturgique est une espèce de saut dans l'étrange. Au point que, on peut se demander s'il n'est pas impossible qu'il en soit autrement dans le monde moderne. La liturgie, n'est-elle pas par essence maintenant anti-moderne, comme Maritain employait ce terme.
Et c'est intéressant, c'est paradoxal.
C'est paradoxal, et c'est d'où la difficulté de toute réforme. Quand on se penchera sur une vraie réforme, il en faut certainement une. Et puis de toute façon, l'état de... La liturgie des paroisses est telle qu'il faudra bien faire quelque chose. Ouais. Comment faire?
Qu'est-ce que vous... Vous avez quand même, vous avez quelques idées, vous avez vos propres idées, vous avez celles des personnes qui ont répondu à vos questions avec beaucoup de liberté. C'est un livre important parce que c'est un livre de liberté sur une question où il n'y a pas de liberté.
Voilà, c'est précisément...
La question liturgique, c'est vraiment une question, on n'en parle pas.
Voilà, comme je voulais faire parler, j'ai bien dit à mes interlocuteurs, voilà ce que je pense. Je pense que parler, c'est dangereux parce que ça peut faire tomber des murailles. Mais c'est ce que je veux. Non, vous prenez le risque, moi aussi. Moi, je prends le risque du réformisme, au fond, à savoir...
De faire libéral, par exemple, aussi.
Peut-être, mais aussi de faire de sauver la réforme. Oui. Hein, supposer que la réforme soit bien appliquée, bon, je vais sauver une réforme à laquelle je ne crois pas. mais c'est un risque que j'assume très facilement parce que
vous
je crois qu'il
n'y a pas beaucoup de risques.
Si Mme Roger avait raison, c'était un risque en effet.
Bon, le sort n'est pas exemple. Une petite anecdote, si vous permettez. Qui m'avait interpellé et dont j'ai eu quelqu'un en parle dans votre livre, je vais pas retrouver, mais c'est on voit comme la liturgie est un peu raplaplate quoi. Bon, on voit qu'on saisit toutes les occasions de coudre sur ce manteau liturgique moderne à la manière du patchwork des vieux morceaux de vieux tissus, c'est pas vénérable. Et c'est ce que le Saint-Père a fait à la messe de Longchamp des GMJ, en fin de compte. Parce que surtout les petits manuels qu'avaient tous ces jeunes, c'était la prière du Notre Père sera chantée intérieurement, sera dite intérieurement dans chacune de vos langues.
Alors, finalement, c'était
ça. Et le Saint-Père a dit prêchez petit salutaribus, moniti. Bon, il a lancé le Notre Père en latin parce qu'il a dû penser à ce moment-là. Je suppose que c'était absolument pas prévu. Hein, ça a surpris absolument. Tout le monde, ça a pris tout le monde à contre-pied. Il a l'habitude de faire ça, Jean-Paul II. Hein, Jean-Paul II, il est très très sympathique. Il arrive toujours là où on l'attend pas. Et parce qu'il a trouvé que c'était un symbole d'unité plus fort que de réciter la même prière dans diverses langues, me semble-t-il.
Mais
qu'est-ce que vous en pensez de cette... Parce que beaucoup de vos intervenants disent, bon, déjà au moins qu'on remette le kyrial.
Ce que je disais d'abord, c'est qu'ils ont parlé très librement et que j'ai essayé quand même de les faire d'appuyer, même quand ça ne me plaisait pas, dans le sens de la liberté, pour que chacun dise ce qu'il a sur le cœur. Oui, alors parmi les choses qu'ils disent, eux, bon, il y a aussi celles que je dis et que je propose. Bon, entendons bien, je parle de la... Et je parlais, et nous parlions avec eux, et ils parlent de la liturgie des paroisses, hein, non pas de la liturgie des lieux privilégiés où on célèbre une liturgie traditionnelle à divers degrés. Et il faut que ces liturgies-là se multiplient. Comme vous le disiez, c'est un atout considérable, une pression sur la situation liturgique générale, d'autant plus que il y a très peu de prêtres, il y en a de moins en moins, et que ces lieux sont de moins en moins minoritaires, ils ne le sont pas du... psychologiquement déjà. Alors ceci étant, dans les paroisses, comment faire, hein, on ne peut pas, bien évidemment, dans quelle est la paroisse la plus proche, Saint-Jean de Chantal, je pense, remettre dimanche prochain la messe de Saint-Pie V en latin, de A à Z, quand bien même le clergé le voudrait, ce ne serait pas possible. Donc, que faire, hein, et...
Alors, mais vous croyez qu'en rajoutant des petits bouts comme
non,
ça,
je ne crois pas. Je crois que, si vous voulez, ce que je disais au début, la loi de la prière est liée à la loi de la foi. Donc, cela se fera en même temps que se fera un examen de conscience plus général sur des questions fondamentales ouvertes par le Concile et tout ce qui l'entourait. Bon, tout ira de pair. Mais la liturgie peut, jusqu'à un certain point, déclencher cet examen de conscience. Le prêtre dont je vous parlais, l'un des deux, parlant de l'hôtel retourné, ajoutait immédiatement, d'ailleurs, le fait de retourner l'hôtel serait compris comme, et c'est pour ça qu'il aurait voulu le faire, lui, comme un retour, il n'a pas dit anticonciliaire, mais c'est ce que ça voulait dire, hein, une remise en cause de ce qui a suivi le concile, de ce qu'a été le concile. Donc tout se fera en même temps. Ce n'est pas des petits bouts, je crois, mais quand on entrera dans cette discussion de pratique et concrète, parce que mon titre peut être trompeur, reconstruire la liturgie, on peut s'imaginer qu'on va trouver un programme de reconstruction. En fait, c'est une invitation à en parler. Donc quand on en parlera sérieusement, que des hommes responsables, des dirigeants du diocèse, des dirigeants de l'Église diront, bon, que va-t-on faire dans les paroisses, à ce moment-là, dans le même temps, c'est toute une reconstruction qui se mettra en œuvre. Et donc, il faudra en effet bon, étudier la question, la situation sur le terrain, que sera-t-elle, je ne sais pas. Non, mes interlocuteurs disaient premièrement premièrement l'hôtel. Parce que là, sensiblement, même si ça n'est pas le tout, pour le peuple, c'est très, très parlant. Dans le prochain numéro de Catholica, je fais un éditorial sur ce fait, retourner l'autel, à partir d'un article de la revue Concilium, qui est une revue, donc, de, disons, de gauche. C'est un théologien américain de Berkeley qui s'apercevait, en visitant la cathédrale de Metz, qu'il y avait deux autels et que ces deux autels représentaient vraiment deux ecclésiologies. L'un étant l'ancien, une porte ouverte vers le ciel, et l'autre étant la célébration de la messe au cœur du monde. Et deux manières de célébrer, deux ecclésiologies dont s'engage beaucoup, en effet, la position de l'autel. Et le fait de retourner l'autel, dans la mesure où c'est précisément pour faire quelque chose, pour changer les choses, pour... Je cherche tous les termes pour ne pas dire revenir en arrière. Mais c'est ce que je veux dire, enfin, bon, dans le bon sens, ce serait déjà très important. Ensuite, sans doute, en effet, tous disent du latin.
Alors, il y a eu tout un débat, effectivement, sur l'autel et la position... La position du prêtre vis-à-vis de l'autel et aussi sur la nature de l'autel. Je crois que c'est oui, important parce qu'effectivement, le prêtre face à l'autel, le prêtre président l'assemblée des fidèles, l'autel ressemble plus à une table de salle à manger, si je puis m'exprimer ainsi, que à l'autel du sacrifice. Or, ce qui se renouvelle sur l'autel, c'est le sacrifice.
C'est le sacrifice de la croix.
Non sanglant, mais le sacrifice que le Fils rend au Père. C'est le Golgotha, de façon non sanglante, qui se renouvelle. Et, parce que là aussi, il y a un problème théologique.
On ne peut pas pour autant oublier, bien sûr, que c'est aussi la scène du Jeudi Saint.
Oui, c'est la scène du Jeudi, mais l'institution de l'Eucharistie...
Et par avance, c'est cela.
Post-quam, senatus est. Après qu'ils eurent consommé le dîner de la Pâque, enfin le souper de la Pâque, après que... Donc ce n'est pas partie intégrante du repas, c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs, dans les premiers temps, je crois que c'était un repas, les agapes, et ensuite, il y avait le sacrifice qui s'accomplissait. Il n'y a pas confusion, parce que sans quoi les fidèles vont tout confondre. On croit que c'est un repas. Donc, c'est du pain, du vin. Bon, voilà, alors il y a une espèce de présence spirituelle, mais bon, c'est toujours du pain, c'est toujours du vin. Alors, vraiment, au plan théologique, on va dans le décor.
Bien sûr, insistant sur le repas fraternel, partagé par les frères ensemble, évidemment, a causé des dégâts considérables. Et la liturgie, c'est une accumulation de détails qui sont tout significatifs, et qui chacun, bien sûr, peut se discuter dans un autre, peut toujours dire la communion à la main, après tout, ça a été le fait des premiers siècles de l'Église, on peut prendre la communion à la main avec beaucoup de respect. Oui, bon, bien.
Mais on peut aussi la prendre avec pas de respect.
Pas de respect, si vous ajoutez le fait que vous supprimez le déjeuner flexion, que le tabernacle n'est plus sur l'autel, que l'autel est au milieu de l'assemblée, que...
Qu'on refuse de vous communier si vous êtes à genoux,
oui,
si vous mettez
que
à genoux,
c'est une religieuse ou en civil ou en assemblée qui va au tabernacle, qui l'ouvre, qui vous apporte la communion, ainsi de suite, vous savez, une accumulation de choses qui vont dénaturer la...
Qui désacralise totalement l'acte. Alors, revenons à l'autel, parce que c'est important.
Donc l'autel est certainement très important.
Il y a eu toutes les études, notamment l'étude du regretté Mgr Gambert, qui était quand même un liturgiste relativement connu. Et un de ses livres, d'ailleurs, je crois, a été préfacé par le cardinal Ratzinger, si je me souviens bien. Donc c'est signe que ce problème l'intrigue.
Qui a présidé ses funérailles et qui était très impressionné par ça. Au fond, vous savez, tout le monde est d'accord là-dessus, sur ce que disait Gambert. D'ailleurs, c'est une...
On ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé, c'est ça le problème.
C'est ça, oui. Les choses, nous les disons ici, vous auriez des évêques autour de cette table, ils diraient la même chose. Simplement, ils ne le diraient pas publiquement.
Comme vous le dites, les gouvernements n'acceptent jamais de dire qu'ils se sont trompés. Seulement, ils estiment que la communication est mal passée, qu'on a mal interprété leur directive ou leur décret d'application.
Alors, ce que disait Gambert, tout le monde le savait, à savoir que s'il y a eu une question d'orientation dans les églises, c'était l'orientation au sens de tourner vers l'Orient, tourner vers le soleil levant, celui de la résurrection, celui de Jésus-Christ qui reviendra à la fin des temps. Alors, ceci étant, on peut se demander où était l'autel dans les églises anciennes, si le prêtre a été à tel endroit, si, en effet, dans les églises romaines, le pape jusqu'au concile, dans les grandes basiliques, célébrait de l'autre côté, je ne dis pas face au peuple, célébrait de l'autre côté de l'autel.
Il y a un moment où on se retournait d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Mais donc, il n'y a pas de... mais le face au peuple, le fait de célébrer de ce côté-là, parce qu'on est face au peuple, ça, c'est une nouveauté de la réforme et de ce qui l'a précédé. Et c'est une nouveauté. On ne peut pas...
Alors, comment vous...
Donc, ça,
Cette réforme de la réforme à laquelle... on appelle, en fin de compte, une autorité incontestable de l'Église, qui est le Karl Ratzinger, dont il y a un extrait dans votre ouvrage. Comment la voyez-vous? Vous la voyez plutôt se faire graduellement ou se faire aussi brusquement, révolutionnairement que l'autre, contre-révolutionnairement que l'autre se fait révolutionnairement?
Il est très difficile de faire des prédictions. Je ne sais pas, ça dépendra beaucoup de l'évolution de l'Église, je veux dire, dans les années à venir. Mais dans cet autre livre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre, j'essaie de faire une histoire de la crise de l'Église bien avant le Concile. Mais très franchement, la crise de l'Église, elle est devant nous. C'est les temps à venir qui vont être véritablement terribles. Que va-t-il se passer? Quel sera l'élu du prochain conclave? Comment va évoluer la vie des diocèses? Manifestement, il y a une espèce de libéralisation accentuée dans tous les sens. On admet en effet plus facilement de parler de la liturgie traditionnelle. C'est vrai, mais
ça aussi, ce qu'on peut, hein.
Dans le même temps, vous avez les pires aberrations qui connaîtra-t-on par exemple en France la situation américaine. Actuellement, en Amérique, on discute beaucoup des problèmes liturgiques, notamment...
Avec beaucoup de liberté, d'ailleurs.
Beaucoup de liberté, dans tous les sens.
Vous en rendez souvent compte, dans Catholica et ailleurs.
Oui, dans tous les sens. Donc la liturgie traditionnelle fait l'objet d'émissions télévisées, on en parle, il y a des livres, livre du père Nichols... professeur à Oxford, donc qui est largement répandu aux États-Unis, qui va être traduit en français par elle l'année prochaine, qui attaque le nouveau rite. Non, tout ça, t'es bon.
Il dit qu'on devrait réimposer l'ancien rite et concéder à ceux qui vraiment peuvent pas s'en passer le nouveau rite, qui est une espèce de... Ah, c'est la vraiment contre-révolutionnaire, c'est la révolution à l'envers, quoi. C'est drôle.
Et dans le même temps, bien sûr, il y a des progressistes acharnés qui font des messes présidées par des femmes, ils appellent ça des messes critiques, donc ils sont des messes volontairement qui provoquent.
C'est pas des messes, c'est présidé
c'est
par
non, ça, c'est rien, ça va des messes, mais une dérive.
C'est des simagrées, quoi, c'est des singeries.
Bon, or, tout passe en même temps sans que on puisse. On ne veuille condamner ni les uns ni les autres. L'étiquette de catholique reste sur tout le monde, hein, ce qui est le problème général, mais qui risque de s'accentuer. Et il est possible qu'en France, bientôt, on voit la même chose. Les évêques, par exemple, n'ont plus de prêtres. Les églises sont vides. L'évêque d'Évreux, un des plus conciliaires de France, a concédé à la fraternité Saint-Pilice de Fèvre, pratiquement a concédé. Une église ne pouvait pas faire autrement, malgré une pression très très forte de son clergé en sens inverse. Mais on verra peut-être ce même évêque ou un autre concéder à une communauté « Nous sommes l'Église » où célébreront des prêtres mariés, des prêtres... Tout cela est possible.
C'est pas très
donc on ne peut pas...
Vous n'êtes pas très optimiste.
Si, voilà, en même temps
si, ouais.
Parce que je crois que les choses ne restent pas en l'état. Et cela, c'est une... On ne peut pas rester dans cette situation.
Non, mais il n'est pas sûr que ce qu'on appelle les paroisses, bon, d'abord les paroisses, elles ont déjà beaucoup, beaucoup bougé au cours des siècles. Mmh. Et puis certaines ont disparu, d'autres ont été fusionnées, mais peut-être que le système paroissial est peut-être plus aussi évident.
C'est ça, c'est bien possible.
Bon, moi, j'ai pas de statistiques beaucoup, en tête, mais c'est vrai que ce qu'on appelle les communautés nouvelles, qui sont nées après le Concile Vatican II, qu'elles soient traditionnalistes ou tout simplement, je parle Emmanuel, les frères de la communauté Saint-Jean ou la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, enfin tellement de...
Et qui sont nés de la crise, en fait.
Qui sont nés de la crise, qui ont été des espèces
de
décès pour arrêter la dégringolade. Et certains y ont relativement bien réussi. Enfin, bon, ce qu'on appelle les petits gris, un peu familièrement, parce que la couleur de l'Arabie est le gris, recrute quand même.
Oui, bien sûr.
Énormément.
Ils ont des vocations.
Il y a beaucoup de vocations dans les séminaires de la tradition, on le voit, même dans certains d'ailleurs plus du monde, parce qu'il n'y a pas assez de place assez vite pour les jeunes. On sent qu'il y a quand même malgré tout l'Église à la fois s'atomise, elle perd de l'unité visible, mais on peut espérer qu'elle va gagner en unité invisible, parce que l'Esprit Saint aussi travaille tout ce monde.
Oui, enfin, ça, il faut prendre, ça peut être...
Laissez-moi être un peu... C'est la soirée de Noël, laissez-moi quand même un peu d'espoir.
Oui, être optimiste, bien sûr, mais je crois qu'il ne faudrait pas prendre son parti de l'atomisation et de l'anglicanisation de l'Église catholique.
Mais High Church et Low Church, quoi. En fait, on sait un petit peu ça qu'on peut avoir.
Oui, c'est ça. Non, Puis, par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes sociologiques. Fondamentalement, l'Église a les paroles de la vie éternelle.
Oui.
Et dès l'instant que ces paroles peuvent être entendues, et notamment par le moyen du rite, parce qu'au fond, ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas une question de sensibilité. C'est la foi même qui est en jeu, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et bon, dès lors qu'on va dans le sens de remettre ce message en clair, compte tenu de ce que sont nos contemporains, de ce qu'ils ont vécu, bien sûr, il faut avoir beaucoup de... il faudra sans doute beaucoup d'adaptations. Hein. Mais dès ce moment-là, le message à nouveau passera. Ça n'est pas possible autrement. Et ce que vous dites des communautés nouvelles, c'est vrai. Il faut le dire et le redire. Dès lors qu'il y a un appel très doctrinal clair, enfin plus clair en tout cas.
Et une liturgie à peu près convenable, parce que généralement, mais même dans le Paul VI, c'est assez convenable, parce qu'il y a quand même, enfin au moins, c'est l'Eucharistie, enfin au moins il y a un culte de l'Eucharistie, il y a une vénération de l'Eucharistie, il y a des saluts du Très Saint-Sacrement, y compris dans la communauté des frères de Saint-Jean. Bon, il y a le chapelet, enfin toutes sortes de dévotions, évidemment qui ne sont pas, bon, ce sont des dévotions.
Dans les paroisses, un retour analogiquement identique se faisait, on verrait aussi à nouveau des foules pieuses, des conversions, des confessions, des vocations. Bien, il y aura des résistances, forcément.
Il y en a toujours eu, de toute façon.
Il y aura plus que des résistances, il y aura des cassures. Mais ça, c'est le problème plus général. C'est celui de l'état de l'Église actuelle, là, qui est...
elle est toujours au bord du schisme.
Un schisme multiforme.
Tout à fait multiforme, protéiforme. Oui, voilà. Absolument... protéiforme, c'est le drame.
Dans ce livre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je pense à un chapitre à l'état doctrinal donc de l'Église aujourd'hui, et en estampillant des
catégories
bien connues, et bon, toutes en France, et presque toutes à Paris.
Oui.
On peut dire les pires énormités, mais reconnues, j'ai écarté tout ce qui n'était pas certain. Hein. On peut dire les pires énormités dans sorte de domaine théologique, sans être inquiété de rien, nier la virginité de Marie, dire qu'il y a plusieurs voies de salut, que nier le sacrifice eucharistique, tout en se disant catholique. Donc ça ne peut pas durer. Et ça dépasse le problème liturgique. Le problème liturgique est pris là-dedans. Donc, je suis optimiste, comme vous, mais je crois qu'on va nécessairement vers des fractures.
Ça ne pourra pas durer aussi longtemps que les impôts, quoi, logiquement, cette situation. Très beau. Quel est le sentiment que vous avez sur Jean-Paul II, sur le pape?
Sentiment complexe. C'est sur ce qu'il incarne. Je parlerai plutôt que de la personne même, à savoir ce qu'on appelait la restauration. Quand il est arrivé au pouvoir...
Ça a été plutôt le containment, je préfère ça, moi, en termes...
En 78, il y a eu l'élection de Jean-Paul Ier d'abord, et qui était un peu dans le même sens, et la sienne ensuite, qui est une période déjà ancienne. 78, c'est vieux.
C'est très vieux.
Mais on est, le premier après-concile était passé, avec toutes les dérives possibles, l'explosion droite, gauche, enfin, vous voyez que ça ne pouvait pas continuer comme ça. On a voulu... les cardinaux ont cherché un homme qui puisse
remettre un peu d'ordre,
remettre de l'ordre, mais dans les limites du concile.
Donc je disais containment parce que restauration c'est déjà un mot critique qui a été utilisé par la gauche progressiste, si vous voulez, pour dire c'est la restauration, etc. Alors que c'est pas ça, c'est plutôt le containment, c'est-à-dire empêcher ce fleuve tumultueux d'aller trop loin, de déborder trop vite. On a reconstruit des digues, on a essayé de bricoler, de colmater les brèches qui commençaient à s'ouvrir de partout.
Et il a été l'homme de la situation, c'est-à-dire qu'il était parmi les cardinaux le plus à droite des incontestables conciliaires. Et c'est ce qu'il a voulu dans tout le long de son pontificat, le concile, tout le concile, mais pas plus que le concile, en essayant d'interpréter le mieux possible, mais en restant tout de même dans les limites. Il a fait un discours le jour même de son élection, qu'il a préparé lui-même. Il a réuni dans la nuit de son élection, et il a tenu le discours aux cardinaux dans la Sixtine, en leur faisant je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Donc il a rassuré la droite qui lui avait donné ses voix, cardinal Siri à l'époque. Mais je prends l'engagement solennel, ce qui était assez, de respecter le Concile Vatican II. Ce qui dit bien d'ailleurs ce qu'est ce concile. On n'imagine pas un pape du passé disant je prends l'engagement solennel de respecter le Concile Vatican Ier, de retrouver le Concile Vatican, c'est évident.
Ça tombait sous le sens, évidemment. C'est curieux, c'est une des choses.
Oui, alors d'où l'ambiguïté du pontifical, le nouveau catéchisme, qui en dit le plus possible, mais aussi Assise. Mm-hmm. Et l'ambiguïté des deux phénomènes, au reste. C'est-à-dire que le nouveau catéchisme en digue, tout en faisant passer tout de même les doctrines sur la liberté religieuse, le respect des religions non chrétiennes, etc. Alors qu'Assise, en allant très loin, était aussi pour empêcher les dérives les plus extrêmes.
Il y aurait beaucoup à dire. Mais là, on s'éloigne. Notre temps, comme on le disait autrefois à la TSF, c'est pas le temps qui nous était attribué et maintenant épuisé. Cher Abbé Claude Barthes, c'était une grande joie de vous recevoir et d'avoir cette discussion à bâton rompu, je crois dans un bon esprit, puisque nous savons que l'Église a les paroles, vous et moi, les paroles de la vie éternelle, et donc la liturgie est une chose importante et qui... c'est une bonne contribution que vous avez apportée. En tout cas, tous ces gens parlent librement et on a besoin de liberté. On a besoin que les cœurs s'expriment et que les bouches s'ouvrent pour exprimer ce qu'elles ont à exprimer. C'est un beau sujet de Noël. Noël, c'est l'espérance, même que l'espérance, c'est la certitude de la rédemption qui s'incarne. Eh bien, il faut avoir aussi l'assurance que les choses iront mieux, peut-être après pire, mais enfin, elles iront certainement
mieux dans le pire, mais mieux de toute façon.
De toute façon. Alors, je rappelle donc que je vous recevais aujourd'hui pour votre livre publié chez François-Xavier Guibert, Reconstruire la liturgie. En fait, c'est un livre que vous avez préfacé, mais vous avez recueilli des témoignages de personnalités très, très différentes, qui toutes ont des choses passionnantes à dire sur la liturgie actuelle, et des choses plutôt critiques d'ailleurs sur la liturgie actuelle, évidemment. Je rappelle que vous êtes également le chroniqueur religieux de la revue Catholica, qui est une revue trimestrielle, dont je redonne le téléphone. C'est à Paris le 01 69 34 94 72. Et puis que vous aviez publié antérieurement, toujours chez l'excellent François-Xavier Guibert, Trouvera-t-il encore la foi sur la terre, sous-titré Une crise de l'Église, histoire et questions, dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, nous l'avons évoqué, abordé, mais je crois que ce livre concernant la liturgie est un livre extrêmement marquant qui marque peut-être un tournant, parce que les gens commencent effectivement à parler, et c'est une très bonne chose, une très bonne chose pour la Sainte Église en fin de compte. J'espère que vous joignez vos vœux au bien pour souhaiter à tous les auditeurs un très joyeux Noël.
C'est
et puis
Noël qui pourra commencer quand on part.
Voilà, et nous retrouverons bien sûr mercredi prochain. Ce sera la vigile de la nouvelle année. Là, je souhaiterais à vos auditeurs une sainte année.
Un nom de grâce.
D'ici là, merci, bonsoir à tous et que Dieu nous garde.
Ici Radio Côte-Oisille, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Bekech, dirigé dans sa deuxième partie par Daniel Amiche, émission préenregistrée le 22 décembre et diffusée pour la première fois mercredi 24 de 18h à 21h, en différé jeudi 25 décembre dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30, cette deuxième partie a été réalisée par Franck et par Denis. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci, je vous rappelle l'adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.